retrouvez le Motor The Show, l'actu des sports mécaniques, tous les jeudis à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe.
Eh oui, car à l'approche de l'hiver, même lui ne prend pas ses congés. Ah, il va bientôt fêter avec nous la première année, la 52e émission du Motor Show, puisqu'il a le plaisir de vous l'animer ce soir. On est en famille ce soir, Mathieu. On est vraiment voilà, en famille, on n'est pas trop nombreux, mais c'est un petit peu sympathique. Comment vas-tu?
Et toi aussi, Chris, tu es en famille. Bonsoir, la Belgique.
Oh,
bonsoir, la France. Bonsoir, tout le monde. Très heureux de vous retrouver. Ce soir, effectivement, une nouvelle approche. C'est bientôt les vacances. C'est pour ça que nous sommes, Chris, à notre antépénultième émission de l'année.
Oh, c'est triste. Moi, c'est triste. Moi, je n'aime pas la fin d'année. Genre, je sais pas. Chacun ses goûts. Enfin, on va pas lancer le débat ce soir, mais voilà. T'aimes bien, toi, les fêtes de fin d'année?
Ah ben, oh, moi, c'est juste pour le foie gras, la dinde, le saumon fumé, hein.
Moi, je crois que c'est à cause de ça que j'aime pas, en fait.
Moi, c'est fini, les cadeaux. On est trop vieux, maintenant.
Ah
C'est
oui,
fini.
c'est peut-être pour ça aussi.
Donc, bonsoir à tous, effectivement. Très heureux de vous retrouver. La première année que nous la fêterons le jeudi 12 janvier. C'est bientôt. Mais pour l'instant, c'est une nouvelle édition de l'émission. Alors, un programme assez allégé ce soir, parce qu'on va mettre les bouchées doux de la semaine prochaine et dans 2 semaines. Donc, on se préserve un peu. Et surtout, on va préparer un week-end d'exception à Bercy, les 10 et 11 décembre prochains. On sera là pour vous et on vous relatera notre prestation de journaliste jeudi prochain. Donc, bonsoir Chris, tu reviens vers nous tout à l'heure vers 21h30.
Exactement.
Mais je te salue quand même au passage.
Ben, je te dis à dans 20 petites minutes, c'est dans pas très très longtemps. Et je te dis aussi, je te demande évidemment pour les auditeurs qui sont quand même là et qui écoutent, pourquoi ce petit retard? Est-ce que c'est trop personnel de le demander? Ah, on ne répondra pas, on fera comme ça, non?
Oui, pas de
D'accord.
souci. En tout cas, tout à l'heure, mon cher
À
Chris.
tout à l'heure.
Prends soin de tes prochains. Allez, avec moi, à mes côtés, Olivier, ben, le fidèle lieutenant de l'émission de PVRT 34. Bonsoir, Olivier. Est-ce que tout va bien dans ta contrée lointaine?
Ça va, ça va. Moi, je pense pas que Guitry, c'est non plus une contrée lointaine comme certains coins en Auvergne ou en Alsace. Mais...
Oui. C'est dans le nord de la France, à peu près. Hein,
oh, ça
le nord-ouest.
Plus à l'ouest, c'est plus à l'ouest que dans le nord. Quoi.
Exactement, Vitré, pas loin de la Bretagne. C'est un bon
c'est
point.
C'est pas loin de la Bretagne, c'est en Bretagne.
Voilà, c'est ouais, les Vilaines, on va dire.
Voilà.
C'est ça, Rennes. Le Stade Rennais, forcément. Voilà, donc, cher Olivier, ce soir, pour l'instant, on est tous les deux. Parce que malheureusement, on ne peut pas leur empêcher, nos autres consultants, de travailler, hein, forcément. Ils travaillent, ils sont occupés ce soir, donc on va quand même tenir l'émission, on tient nos engagements, mais bon, voilà, c'est un programme allégé, on ne va pas faire les 2 heures, ça m'étonnerait, on va essayer de faire 1h30 ce soir, mais on a quand même d'actualités à faire partager, puisqu'on est là pour ça. Avant les 2 dernières émissions, à partir de la semaine prochaine, qui vont être assez sympas, et bien ce soir, mon cher Olivier, on va parler de l'événement du week-end dernier, tout d'abord, la Race of Champions, qui s'est courue à Düsseldorf, comme depuis l'an dernier, la victoire de l'équipe d'Allemagne, Vettel et Schumacher en équipe. Et côté individuel, Sébastien Ogier, le français pilote de rallye, qui s'est imposé haut la main devant Tom Christensen, on va y revenir dans quelques instants. Ensuite, on aura beaucoup, beaucoup d'informations de la semaine. Dans toutes les disciplines que l'on peut aimer, par exemple du Dakar, du WRC, de l'endurance, un petit mot, et de la Formule 1 surtout, encore énormément d'informations. Et donc, je l'ai dit, ce week-end auront lieu les ERDF Masters Kart de Bercy, samedi 10 et dimanche 11 décembre. On sera là pour vous. On va suivre l'événement et on vous en parlera jeudi prochain. Et on va faire des photos, interviewer des pilotes, hein, tout plein de monde pour connaître cet univers qui est pour nous assez lointain. Et justement, on va essayer d'en rapprocher tout doucement grâce à nos accréditations. On remercie donc tout le monde qui ont bien voulu nous recevoir. Bon, on verra comment ça se passe. On est très impatients d'y être. J'espère qu'Olivier, tu as hâte d'y être aussi. On te dit, c'est un événement qui revient hein, depuis 2001, ça va être sympa, je pense.
Bah ouais, c'est vraiment super sympa. C'est la première fois pour moi que je vois des pilotes d'aussi près pour les interviewer, pour prendre des photos. Et j'espère qu'on va quand même retirer pas mal d'interviews pour les faire partager jeudi prochain.
Exactement, on va déjà leur poser des questions sur leur participation à l'événement, parce que c'est un événement assez majeur, assez important dans l'Hexagone qui revient, et forcément parler de leur actualité, de leur carrière, leur saison, leurs objectifs de prochaine, parce que on a un beau plateau, on en reparlait tout à l'heure, mais effectivement, ça va être assez sympa à suivre. Et ce karting en indoor, c'est toujours spectaculaire, parce que c'est très étroit, forcément, et il va y avoir beaucoup d'accrochage, on l'espère forcément, dans les limites du sport, mais il va beaucoup se passer de choses. Et c'est sûr que j'ai trouvé une vidéo sur Internet cette semaine entre un petit duel entre Senna et Prost en 1993. C'était la première édition des Masters Kart de Bercy. Et effectivement, c'était leur dernier duel aux deux grands champions qui s'affrontaient à Paris en 1993. Donc, ça remonte et voilà, ça fait plaisir de revoir ces images-là qui, on n'a pas pu les voir en direct, on était trop jeunes. Effectivement, voilà, merci à Internet de nous refaire vivre quelques moments comme ça, c'était sympa.
Ouais, et puis je trouve que c'est super sympa de voir des petites compétitions comme ça en fin d'année, comme la Recto Champions, la course de karting de Felipe Massa au Brésil, et ils ont eu un F-Master Cup qui revient. Je trouve que ça nous fournit d'autres combats dans d'autres disciplines. Ça permet de faire rejoindre tous les pilotes de toutes les catégories.
Exactement, ça permet de faire un peu d'actualité aussi parce que on peut en parler, parce que sinon ça aurait été compliqué, mais effectivement, ça va être vraiment vraiment sympa. Et le rassemblement de tous ces pilotes, le rassemblement de tous ces pilotes, et eh ben effectivement, ça nous permet de découvrir un autre environnement, que leur saison nous était vraiment focalisée dans leur championnat, c'était vraiment très compliqué pour eux de se libérer. Et donc voilà, on va les voir, ils sont plus sereins, plus reposés, enfin, ils ont moins de pression, ils viennent pour le plaisir, ils ont certainement le sourire jusqu'aux lèvres, on les justement qu'ils puissent être plus accessibles aux supporters et à ces journalistes que nous sommes. Donc bah, Chris, est-ce que tu es revenu donc?
Parfaitement, je suis à l'avance.
Oh bah écoute, tant mieux, alors on va pouvoir commencer par la Race of Champions. Est-ce que Chris, tu as suivi cet événement ce week-end?
Alors, je te l'ai laissé suivre pour moi. Je le savais que tu m'en parlerais jeudi, donc voilà. Mais tu l'as très bien suivi, hein, par contre.
Ah ben je sais que ça, parce que c'est vraiment très spectaculaire. Enfin, voilà, un événement Düsseldorf. Alors, c'est un autre circuit que les Masters Kart. Là, on a deux circuits parallèles. Effectivement, on connaît le principe, hein, deux circuits vraiment très très compliqués. Très. On a un petit pont qui passe et un tunnel par-dessous. Voilà, les pilotes se livrent en duel et doivent faire le meilleur temps à chaque fois. Donc, pour la première compétition, c'était l'équipe, la pétition par équipe. Et voilà, l'Allemagne donc l'a remporté pour la cinquième année consécutive. Michael Schumacher et Sébastien Vettel. C'est le plus beau duo. Je rappelle les autres équipes. Nous avions la France, représentée par Sébastien Ogier et Romain Grosjean. C'est déjà pas mal. La team nordique entre Tom Christensen et Juho Hänninen, le pilote de rallye. La team USA entre Travis Pastrana et Brian Deegan, nos amis un peu de X-Games et de moto. La team Germany 2, la deuxième équipe d'Allemagne avec Timo Glock et Timo Scheider. Et le groupe B, team Germany, l'Allemagne, je m'en rappelle. Slave entre Petrov et Jan Kopecky. La Grande-Bretagne représentée par Jenson Button et Andy Priot, et les All-Stars, et les Coulthard hein, quand même, et Philippe Albuquerque, c'est le vainqueur titre. Donc voilà, on a eu des duels par équipe, mais l'Allemagne a eu la plus forte, elle a battu la team Nordic avec Christensen et Hänninen. Victoire facile, hein, 2-0 en finale. L'Allemagne fut très forte, et en tout cas, enfin, ce qui s'est signalé, c'est surtout. Il n'y a pas de pression, ils font plaisir. On a pu le voir vraiment tout sourire, les pilotes, dans les coulisses, aux interviews de la télévision. À moi, c'était sympa à voir, hein, ils n'avaient pas de pression, s'ils perdaient. Bon, ils avaient quand même le sourire. On a vu les accolades entre les perdants et les vainqueurs. Donc voilà, c'est toujours sympa à voir, mais encore une fois, pour rester sur le côté sportif, l'Allemagne fut vraiment très très forte avec telle victoire pour l'Allemagne dans son groupe, malgré la Grande-Bretagne qui en a gagné 5, et dans le groupe A, nous avons la France avec 4 victoires et le team nordique aussi. Les demi-finales, la France s'est inclinée contre le team nordique, victoire de Christensen sur Grosjean et de Hänninen sur Rogier, et l'Allemagne s'est imposée contre la Grande-Bretagne. Victoire de Button sur Schumacher quand même, et de Vettel sur Priot, il a fallu une troisième manche. C'est Vettel qui s'est imposé devant Button, parce que Jenson Button a fait une grossière erreur dans le dernier tour. Il est parti en tête à queue, il a dû s'incliner, mais l'Allemagne fut très forte. Olivier, un petit mot, c'était vraiment le duo d'exception samedi soir avec l'Allemagne, encore une fois intouchable.
Bah, c'est vrai qu'il faut une sacrée paire à la Race of Champions. C'est quand même la cinquième année consécutive qui remporte cette compétition. Enfin, j'ai noté quand même que Vettel a sauvé la mise des Allemands en demi-finale, Schumacher qui avait perdu la première manche. Et Vettel a été obligé de sortir le grand jeu pour aller en finale. Et par contre, en finale, ils ont déroulé et ils ont gagné facilement cette finale.
Exactement, il n'y a pas eu de vraiment de duel à proprement parler. Hein. L'Allemagne s'est vraiment posée facilement, on les attendait et ils ont tenu leurs promesses. Magnifique performance des Allemands. Donc voilà, victoire de Schumacher et Vettel. Victoire impressionnante. Nous passons maintenant au duel entre les pilotes individuels. Donc cette fois, ça a changé, c'est dimanche après-midi. Eh bien, sensation, Sébastien Ogier s'impose cette année. Dernier Français, c'était Sébastien Loeb en 2008. Nous avions eu deux autres victoires précédentes pour la France. C'était François Delecour et Hubert Auriol. Donc ça remonte, c'est assez vieux. Hein. Mais voilà, Sébastien Ogier qui s'impose. Alors là, par contre, Ogier, je pense qu'il a vraiment été le meilleur sur tout l'ensemble du week-end, puisque déjà le samedi, il a sauvé la mise à plusieurs reprises. Dans les duels avec Grosjean fut assez, enfin c'était pas vraiment, c'était pas assez le, enfin c'était pas le meilleur, mais Ogier a vraiment rattrapé la situation souvent et en individuel il a fait parler encore une fois tout l'étendue de son potentiel pour aller chercher sa victoire face à Tom Christensen en finale. C'était vraiment magnifique. Donc bravo à Sébastien Ogier, voilà Olivier. Donc Sébastien Ogier qui conclut sa saison, on va dire. De fort belle manière, même s'il sera encore à Bercy pour les Masters 4, donc il peut encore nous faire une grosse performance.
Comme tu disais, avec l'équipe de France, avec Romain Grosjean, ils ont été éliminés en demi-finale, mais je trouve qu'il avait fait quand même sensation. Parce que c'est surtout Grosjean qui a perdu ses duels. Ogier, je crois qu'il n'en a perdu que un. Et c'est vrai qu'après le dimanche, il a été éblouissant et il mérite largement sa victoire. Il n'a fait aucune erreur. Et donc, il remporte cet événement et on va voir ce qu'il va faire samedi, dimanche, Master Kart. Je pense qu'il va avoir un peu plus de mal parce qu'un kart, il n'est peut-être pas passé par là. Donc, il y aura peut-être plus de spécialistes que lui ce week-end.
C'est vrai, il avait fait la marche Castellet de Formule 4 avec l'Auto Academy de la FFSA. Donc, effectivement, voilà, une seule défaite pour Ogier face à Jan Kopecky en groupe, dans le groupe B. Mais voilà, effectivement, Ogier, je suis vraiment dominateur dans tout ce week-end. Il a battu ensuite Andy Priot en quart de finale. Et en demi-finale, c'est encore Martin Tomsic, alors qu'il avait déjà battu en groupe. Donc, il s'est imposé, c'est la deuxième fois qu'il s'imposait face à l'Allemand. Et en finale, donc, face à Tom Christensen, qui s'impose donc 2-0 avec l'Audi R8 et le Buggy, le victoire facile du Français. Et par contre, il faut quand même souligner, après la performance de Tom Christensen, vraiment une manche, une épreuve impressionnante du Danois. Il a battu tout d'abord Sébastien Vettel et Vitaly Petrov en groupe. C'était pas mal. En demi-finale, c'est Jenson Button. En quart de finale, c'est Jenson Button, pardon. En demi-finale, c'est Michael Schumacher. Et en finale, il s'incline contre Sébastien Ogier. Donc, un très très beau parcours de Tom Christensen. Vraiment,
Bon,
c'était quand même.
c'est pas non plus n'importe qui, il a quand même remporté 8 fois le Mans, je crois, donc c'est quand même un sacré pilote.
Effectivement, mais voilà, il a pas battu des pilotes de seconde zone, hein, vraiment. Il a vraiment été très très bon ce dimanche. Et OG, bon, bah, en plus, OG l'ayant battu, ça montre encore une fois le niveau du français par rapport à la concurrence de ce week-end de la Race of Champions. Donc voilà, Tom Christensen qui a quand même n'a pas démérité, loin de là. Voilà, donc les vainqueurs en Allemagne, Sébastien Vettel et Michael Schumacher et Sébastien Ogier le dimanche. Donc ces trois pilotes, on va les retrouver l'an prochain dans leur discipline. Et on peut être sûr qu'ils vont faire le spectacle encore une fois. Et donc peut-être qu'ils reviendront l'an prochain pour la nouvelle édition de la Race of Champions. Mais voilà, bravo à tout le monde. C'était une très belle fête, vraiment très intéressante. Toujours intéressant de voir ce genre d'épreuve, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on voit les pilotes dans un autre univers, dans d'autres conditions. C'est vraiment, c'est plus sympa de les voir dans cette course-là. Ils sont pas de pression du tout, ils font
Ouais.
ça pour le plaisir et pas pour l'argent, hein. C'est vraiment sympa de les voir comme ça.
Ben ça donne en plus un
Voilà.
côté exhibition qui est vraiment super intéressant et un plaisir évidemment. On s'amuse un peu le jeu des comparaisons, c'est vraiment bien. Puis c'est intéressant et amusant de noter quand même que les trois vainqueurs, que ce soit individuels ou collectifs, un futur champion, Ogier, un champion actuel, Vettel, et un ancien champion, Schumi. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Sans faire honneur à mon petit Choumi, mais bon, voilà. Je trouve que voilà. La boucle est bouclée.
Exactement, c'est sûr, voilà. Très belle épreuve, Olivier, peut-être un dernier mot de conclusion.
Ouais, bah Ogier qui finit la saison vraiment au boulet de canon. Et malheureusement pour lui, l'année prochaine, c'est très très dur pour le championnat WRC car il pilotera une Skoda Fabia S2000. Donc je pense que ce sera une voiture moins puissante que les autres, donc il aura quand même beaucoup de mal. On espère le retrouver au premier rôle en 2013 avec Volkswagen.
Exactement, c'est son objectif. Et donc 2012, ça servira de transition pour préparer le retour de Volkswagen. Donc effectivement, il va devoir attendre, mais il y a quand même du travail, hein, ça c'est sûr. Et espérons pour lui qu'il revienne en force et pour lutter contre ses adversaires pour le titre de champion du monde en WRC. Donc voilà, pour ce week-end, nous avions la Race of Champions et la course de cartes de Felipe Massa. Rapidement, ben, c'était Jules Bianchi qui s'était imposé avant de se faire déclasser pour un poids trop léger sur son karting. Bon, c'était vraiment très strict, hein, les règles. Mais en tout cas, Bianchi n'a pas pu gagner, a été déclassé sur tapis vert. Et finalement, c'est Rémy Alguersuari qui s'est imposé. Donc voilà aussi les courses de karting d'exhibition, hein, pour la fin de saison, c'est sympa. D'autant plus que c'est un pilote actuel qui organise, Felipe Massa. Donc voilà, comme depuis quelques années, il a toujours organisé sa discipline à Florianópolis au Brésil.
Comme quoi, je disais, je défendais Alguersuari la dernière parce que j'avais dit que c'était un top sur ce coup-là et c'est un top.
Exactement, bravo à l'Espagnol. Voilà pour ce week-end, c'était Eric ça. C'est léger, mais forcément, c'est la fin de l'année, donc on va passer aux actus en bref de la semaine. Il y en a eu, et il y en a encore, ça c'est sûr, parce que même si c'est la fin de la saison, eh ben, on a toujours quelques infos. Les transferts, pour l'instant, ça reste assez calme, mais on a toujours quelques infos sur la saison 2012, notamment les nouveautés techniques qui sont apportées là. On va y revenir. Tout d'abord, on commence par un petit hommage à Peter Gettin, un ancien pilote. On en a beaucoup parlé cette semaine, il est décédé. Parce qu'il est surtout, connu pour avoir gagné un seul Grand Prix, mais pas n'importe lequel, un Grand Prix assez spécial. Il a gagné le Grand Prix d'Italie 1971 à Monza. Et Olivier, je te laisse nous dévoiler la statistique, tu dois la connaître.
C'est qu'il finit avec, je crois, 5 centièmes d'avance sur le deuxième et ils sont 4 ou 5 en 6 dixièmes, ça doit être ça.
Encore mieux. Ils sont les 5 premiers en 61 centièmes.
Ouais, donc 6 dixièmes.
Oui, en 6 centièmes, je veux dire. En 6 centièmes, il me semble.
6 centièmes. Oh, ça me paraît bizarre. Moi, je dis 6 dixièmes, mais 6 centièmes.
Bah, attends, est-ce que j'aurais mal lu alors? Ce serait dramatique. Je vais trop
Bah,
retrouver ça.
en tout cas, si c'était 6 dixièmes, je crois que ce serait pas le record, hein.
Et non, je crois que c'est 6 centièmes,
Ça doit être 6
justement. Oui,
centièmes,
entre le
allez.
premier et le deuxième, mais entre les 5 premiers, il y avait que 6 dixièmes.
Ah oui, entre les 5 premiers, ça me paraît impossible, les 6 centièmes. Non, ça doit être 6 dixièmes entre les 5 premiers, oui. Ça oui. J'avais pas écouté votre débat.
Effectivement, entre les deux premiers, c'était même pas, c'était un centième.
Ouais, c'est ça. Mais pour les cinq premiers, six centièmes, ça me semble vraiment impossible. Mais six
Oui,
dixièmes,
c'est
là,
six
six dixièmes,
dixièmes.
c'est exceptionnel, hein, quand même. Presque
Ah
sur la
oui.
même ligne, hein, quand même.
C'est voilà, c'est ça. C'est le record qui n'est pas battu. Les cinq premiers en 6 dixièmes seulement, effectivement. Il y avait la vidéo qui tournait sur Internet cette semaine. Voilà, Peter Guettin a remporté un seul Grand Prix, c'était celui-là, donc assez spécial, puisqu'il était avant la parabolique, il était deux ou troisième, et il est resté, la troisième, voilà, il est resté à l'intérieur, et finalement, il a pu doubler tout le monde, notamment Sever et Ronnie Peterson, quand même des grands noms de la F1. Il y avait aussi Mike Aywood, qui était quatrième, et Howden Ganley, cinquième, donc il était forcément surtout connu pour ça dans sa carrière. Il a quand même roulé pour des voitures assez honorables. Il a fait une saison assez intéressante, une carrière assez intéressante. Et vraiment, 71 fut sa meilleure année. Il a terminé 9e au classement du championnat du monde en 71, remporté par qui le titre?
71,
Et
John
là,
Stewart.
ouais.
Exactement, Jackie Stewart, bravo.
Il y avait un autre Jackie X à mon avis. Voilà, c'est clair.
Oui, il a terminé quatrième.
Jackie X, il était pas loin, il me semblait bien, il était pas loin.
Avec une victoire aux Pays-Bas, notamment Jackie X
C'était en
à
60,
Zandvoort.
en 71, ex, en 71 exact. Ouais.
Donc voilà, donc
Et
hommage à
en fait,
Peter
les
Guettin.
deux premiers de ce Grand Prix ont trouvé la mort parce que Ronnie Peterson, il
Et
était décédé.
même François Sever aussi, hein, c'est
Donc,
trois. Même puis Mike
Peterson
Aywood.
décédé au départ du Grand Prix d'Italie 78, je crois.
Ouais.
Et François Sever, c'était à Watling en 72 ou 73, c'était le dernier Grand Prix,
Ça, je m'en
le
souviens
dernier
pas.
Grand Prix de Stewart.
Je me souvenais surtout de Peterson.
Effectivement, c'était un très très grand pilote, il n'a pas pu être champion du monde. Dans le destin est arrivé trop tôt. Et voilà, il nous avait quittés. Voilà, donc au Peter Guettin, qui était en début de semaine, un pilote très connu quand même. Donc, c'était l'hommage de la semaine. On va passer aux actualités. Oui.
Même si c'est même quatrième est également décédé,
Et
Mike
oui.
Aywood.
Exactement.
Donc c'est vrai que malheureusement les pilotes disparaissent. À cette époque, ils disparaissaient
Très très vite, ouais.
tragiquement, ouais.
On pourrait même vérifier tant qu'à faire le cinquième, hein, pour voir. Je recherche un peu glauque pour voir s'il n'y a pas un survivant parmi cette course qui est considérée peut-être comme la plus serrée de l'histoire de la Formule 1. On fera
Eh
ça.
ben,
Ce sera pour la semaine
je
prochaine.
regarde et justement, Howden Ganley est encore vivant.
Ah bah voilà, il y a un
Il
survivant
est
parmi les cinq.
né le 24 décembre 1941. Il est toujours vivant et voilà, il est toujours dans notre monde.
Bah
Et
c'est
voilà,
bien,
c'est
mais
néo-zélandais.
et je ne peux qu'opiner sur ce que vient de dire notre ami Olivier. Le fait est que c'est plus ou moins la génération 40-45. Donc vraiment, c'est quand même assez jeune dans notre époque. Et c'est vrai qu'on le dit, bah pour la durée de vie des pilotes de cette époque-là était beaucoup plus courte que notre espérance de vie actuelle.
Exactement, encore plus en sport mécanique, encore plus
Ouais.
prouvé.
Heureusement, là-dessus, il y a eu quand même des améliorations, même si je pense que c'est vrai que l'espérance de vie d'un pilote ordinaire n'est pas le même que celui d'un fonctionnaire ou d'un boulanger.
Ah bah. Fonctionnaire, c'est une longue durée de vie.
On ne
Allez, on
parle
va
pas sur le
enchaîner,
dos
on
de
passe.
Jérôme, il n'est pas là ce soir.
Oui. Non, Jérôme, il n'est pas là, c'est dommage. Allez, on passe aux actus de la
Il
semaine.
travaille, hein.
Un petit mot sur le Dakar qui se courra du 1er au 15 janvier prochain. Depuis Mar del Plata en Argentine jusqu'à Lima au Pérou. C'est le Pérou, nouveau pays visité depuis l'arrivée du Dakar dans la contrée sud-américaine. C'était en 2009. Le Dakar
Il avait
qui
été.
revient donc
Ouais,
en
qui est...
2010.
C'était en 2009, je crois qu'il avait été annulé en 2008.
Oui, c'est ça, moi je
2008,
connais.
pardon, 2008. Et donc. Ouais.
Oui.
Non, non, 2008. Et donc, effectivement, qui revient. Franchement, on peut se poser quand même deux questions. On se posait la question sur le tenant du titre, Nasser Al-Attiyah. Finalement, il défendra son titre. Donc, ça, c'est quand même une très bonne chose. On se souvient que c'était un peu une surprise l'année passée, parce qu'il avait bien figuré, mais c'était pas lui qu'on attendait. Et on attendait notamment Carlos Sainz, je me souviens, donc c'était quand même une grosse surprise. Et on peut aussi se poser la deuxième question, mais apparemment ça va pas être pour tout de suite quand ce que le Dakar reviendra près de Dakar. Et ça, visiblement, je crois que le contrat est encore a été signé pour déjà pour 2013, donc Ce sera pas pour toi en Argentine, en Amérique du Sud, donc ce sera pas pour tout de suite, visiblement.
Exactement, voilà. Les problèmes, les conflits en Afrique pour l'instant ne sont pas encore réglés.
Ouais, le Dakar qui
Et
reste la compétition automobile la plus contestée au monde, hein, certainement. Si elle avait une palme, malheureusement.
oui, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, ils ont quand même bien fait de délocaliser en Amérique du Sud, parce que là aussi, il y a du désert, il y a beaucoup de beaux paysages, et la compétition sera tout aussi exceptionnelle et magnifique à suivre. Dans ce cas, les pilotes vont être au rassemblement à Buenos Aires le 23 décembre prochain pour des signatures pour se préparer. Donc voilà, donc du 15 janvier prochain, Argentine arrivée au Pérou, nouveau pays visité. Le Pérou, avec beaucoup de bons coureurs, de bons pilotes, ce sera un très très beau duel. Et pour la petite information, petite anecdote assez drôle, la voiture numéro 69 sera sponsorisée par
La moto.
la moto, pardon, 69 sera sponsorisée par un réalisateur très connu dans le domaine du film 69.
Film pornographique, on va dire.
Exactement, on va pas aller plus loin. Hugo Payen, le français, donc sponsorisé par Monsieur Marc Porcel, réalisateur de films pour les grands. Voilà, et donc il aura un écho d'une fille légèrement vêtue sur sa moto avec aussi donc quelques donc le sponsoring donc écrit dessus. Olivier, tu veux nous parler donc de ce Dakar en retour au sport, hein, par exemple. Le Dakar donc qui a lieu dans 3 semaines.
Ouais, donc je voulais parler des engagés, voir qui on peut tirer du lot pour gagner ce Dakar 2012. Donc en moto, on a Marc Coma, le tenant du titre. Donc on a évidemment son adversaire principal, c'est Cyril Després, le français, qui a gagné, je crois, 3 fois le Dakar, ou
Je
même
te le
quatre
confirme,
peut-être.
quelques fois, et qui avait été très malchanceux l'année passée, on s'en souvient.
Donc après, on a quelques outsiders. On a Chaleco Lopez, le Chilien. On s'en rappelle que là-bas, c'est presque un dieu. Depuis que le Dakar est en Amérique du Sud, quand on voit les reportages, les Chiliens sont complètement fous de lui. Et quand je me rappelle l'année dernière, où les 2 ans, il avait remporté justement une étape au Chili. Et là, c'était vraiment la fête partout au Chili. Exactement. Donc, c'était également Elder Rodriguez, qui est pilote portugais, qui fait également de bonnes perfs. Il y a l'ancien Palander, le Valsetter, qui a réalisé aussi quelques exploits au Dakar. On a les Français David Castro et David Fréquigné, qui finissent souvent dans les 10 premiers au Dakar. Et on peut citer également Ruben Faria ou Franz Verhoeven.
Ça fait du monde, en fait.
Après, je pense que ça va jouer comme d'habitude, on va dire, entre Marc Coma et Cyril Després, mais on peut toujours avoir des outsiders qui peuvent remporter des étapes et finir sur le podium final de ce Dakar.
Exactement, hein, c'est que le Dakar, c'est spécial, parce que ça fait à tout moment une casse mécanique, des retards, des problèmes de liaison, de trajet. Effectivement, c'est reste encore très ouvert des débuts. Après, bon, les écarts peuvent se creuser assez vite, bon, mais après, une casse mécanique peut arriver aussi. Donc, le charme de cette discipline, le rallye raid, c'est vraiment très spectaculaire et intéressant à suivre, parce qu'il peut se passer des choses à tout moment. Dans un désert, on peut se perdre, parce que c'est pas un circuit, hein, c'est un désert, c'est très très vague, très large. Donc voilà, c'est vraiment toujours intéressant à voir.
On peut citer également, j'ai là 2 pilotes qui doivent faire le Dakar depuis des années et des années, c'est un peu des cadres du Dakar, c'est Thierry Bétis et Alain Duclos. Les deux Français, je pense que ça fait au moins une quinzaine d'années qu'ils font le Dakar et ils sont toujours présents, malgré qu'ils soient amateurs.
Yes. Voilà, 3 victoires pour près 2010, 2007 et 2005. Effectivement, alors chez les autos maintenant.
Alors, en voiture, si je crois bien, il n'y a pas vraiment de voiture officielle engagée, car Volkswagen s'est retiré également, je suppose, d'être en fin d'année ou après le Dakar. Donc, on a eu la surprise Nasser Al-Attiyah qui va être au Dakar avec un Hummer de Robbie Gordon, justement Robbie Gordon qui va être son coéquipier. On a Gilles Devilliers qui a remporté le Dakar en 2009 ou 2010. Il sera sur Toyota. Il y a Stéphane Peterhansel, là où
Celui qui ne le connaît pas, c'est vraiment une honte, parce que Peter Ansel l'a remporté 7 fois le Dakar, je crois 5 fois en moto, 2 fois en auto. Donc, c'est quand même un cadre de ce rallye. Et après, on a quelques outsiders comme Juan Roma, on a Holodzic, mais qui jouera les troubles faites. Sinon, on n'a pas vraiment grand monde cette année, je trouve, au niveau auto.
C'est vrai, ben... Oui. Voilà, pour les bleus palmarès, nous avions l'an dernier, 2010, Carlos Sainz, 2009, c'était Gilles Devilliers, le Sud-Africain. Tous les autres avaient connu beaucoup de soucis, sauf Devilliers, donc ils ont profité, c'était un vainqueur surprise. Et bon, avant, donc, c'était un salut Calfran, les Français. Et là, on peut rappeler la dernière femme à avoir remporté, la seule femme à avoir...
Jutta Klenschmidt, ça devait être en 2001 qu'on avait bataillé avec Jean-Michel Serre à l'époque.
C'est ça, la seule femme à avoir gagné un Dakar. C'est quand même intéressant.
Bah, de toute façon, en sport automobile, déjà, t'as pas beaucoup de femmes, mais au Dakar, je pense que t'en vois encore moins.
Donc, ça montre encore la valeur de cette pilote.
Malheureusement, elle a trop disparu, dans le sens pas disparu, décédé, mais elle a disparu de la circulation, je veux dire, au niveau automobile. Elle a gagné le Dakar, elle a peut-être fait encore une ou deux années, et après, on l'a pas revue.
Exact.
Et sinon, tu peux parler aussi un petit peu du camion.
Oh là, rapidement, sur les Russes, hein.
Eh ben justement, je suis en train de regarder, apparemment, il n'y aurait pas Khabirov. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, celui qui a gagné, je ne sais pas combien de fois le Dakar, il a gagné peut-être 7-8 fois.
Moi, j'ai Vladimir Tchagin.
Ah oui, non, c'est Tchagin, excuse-moi. Ouais. Et je le vois, je ne le trouve pas dans la liste des engagés, donc apparemment, il ne le ferait pas cette année.
Et pourquoi pas?
Et donc, comme principaux protagonistes à la victoire, j'ai Gérard De Roy. Bon, il a jamais eu chance sur le Dakar, mais c'est quand même un très bon pilote de camion. Et sinon, on a le Kama, comme d'habitude, mais cette année, on aurait Edouard Nicolaev, Ayrat Mardef, et Andrei Karginov. C'est vrai que Kama, normalement, nous a habitué à avoir des grands pilotes, et ça ne dit pas grand-chose.
Ouais, c'est l'an dernier, non, c'est en 2007, la victoire du Mans, le néerlandais Hans Tassé. C'est en 2007, la victoire du Mans, c'est le Kama qui s'impose. Bon, alors on change un peu, mais bon. Malheureusement, après les camions, c'est difficile à suivre ça parce que on n'a pas beaucoup d'informations, c'est vrai, dessus. C'est forcément les autos et les motos qui sont le plus représentés. Mais bon, il ne faut quand même pas les oublier, c'est toujours assez spectaculaire, tout comme il y en a qui sont quad, en buggy, c'est vraiment. Après, voilà, ça peut être aussi le Dakar, une sorte de sport individuel, une sorte de passion pour les plus riches, forcément. Mais après, voilà, c'est toujours faisable. Si on a quand même pas mal d'argent, on peut faire un Dakar, c'est un grand moment dans sa vie, certainement. En tout cas, vraiment, une très belle épreuve.
J'ai la stat pour Vladimir Tchagin, il a remporté 7 fois le Dakar en 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 et 2009.
C'est pas mal.
Je pense qu'au niveau camion, ça doit être celui qui a remporté le plus de victoires. Et ben, justement, c'est sur celui qui a remporté le plus de victoires avec Stéphane Peter Hansel. 5 fois en voiture et 5 fois en moto et 2 fois en voiture.
Exact. Donc voilà, rendez-vous du 1er au 15 janvier, Mar del Plata, Argentine, jusqu'à Lima, au Pérou pendant 2 semaines. On va essayer de suivre ça quand même dans le Motors Show de la rentrée.
Moi, je peux faire quelque chose
dans ta nouvelle rubrique.
Voilà, avec une nouvelle rubrique justement. Et pourquoi pas vraiment le premier gros rendez-vous de ce début de saison sera le Dakar. Donc on essaiera de faire quelque chose de consistant pour cette épreuve.
Exactement. Donc rendez-vous à rentrée.
Mais à début janvier. Et Mathieu, surtout, c'est le premier gros rendez-vous automobile de l'année. Donc forcément, ça va être le prochain vraiment grand rendez-vous hebdo sur RTS dans le Motor Show, bien sûr.
Exactement. On rallye toujours, mais le rallye WRC, nous avions une grosse information très importante qui nous a été prévue cette semaine par la FIA. Elle nous a expliqué ce nouveau changement de règlement pour 2012. Donc tout d'abord, j'explique un peu le contexte. Nous aurons une sorte de qualification maintenant lors du premier jour du check-down en WRC. Donc tout d'abord, j'explique le déroulement, ça se passe comme ça. Nous avons 2 heures, les pilotes auront 2 heures pour reconnaître le tracé qui sera utilisé pour la qualif. Ils ont tous 2 passages chacun en forme d'essai libre pour se repérer, faire quelques réglages dessus. Et ensuite, ils auront donc chacun 1 passage chronométré, chacun leur tour, pendant cette première journée des rallyes sur Terre. Forcément, seulement sur Terre et sur neige pour la Suède. On commence même direct en Suède, parce que forcément, les traces se font par, naturellement par les voitures. Donc après, les pilotes derrière peuvent s'aider de ces traces faites par les pilotes. Mais là, voilà, ça va changer. Donc tout d'abord, une sorte de qualification pour les pilotes, pour les premières journées. Les autres journées du rallye, et là, les départs se dérouleront dans l'ordre inverse du classement général. Donc voilà, pour ne pas pénaliser le pilote qui était premier la veille, qui va payer. Le premier de la veille va se retrouver premier le lendemain pour passer en dernier. Donc ne pas être pénalisé par le balayage.
Donc, ça c'est un changement très très important. Donc il faut être clair, hein, Mathieu. Donc c'est vraiment le changement. C'est avant, effectivement, le premier d'une journée balayé le lendemain. Ça, c'est un vrai changement. Il n'y aura plus ça la saison prochaine. Donc concrètement, c'est vraiment une très très bonne avancée. On sent que vraiment du côté des dirigeants de WRC, on a vraiment pris le problème à bras le corps. Et là, certainement que les décisions sont très positives pour le sport.
Exactement. C'est vraiment des premières règles qu'il fallait à tout prix changer. Ce sera fait une qualification et après le classement sera inversé pour les départs des autres journées. Donc là, c'est ce qu'on souhaitait, on l'aura, donc on espère que ça marchera, mais il n'y a pas de raison, hein, parce que vraiment, enfin, on va pouvoir, les pilotes pourront se battre sans handicap dès le début. Donc voilà, messieurs, cette principale règle qui commencera donc à Karlstad en Suède, à la deuxième manche du championnat, parce que la première ce sera Monaco, le grand retour du Monte Carlo. Alors, on n'a pas encore le classement officiel sous les yeux, le calendrier, pardon, sous les yeux, mais on sait que ça commencera à Monte-Carlo et ça finira même pas en Espagne. Il a été avancé parce que pour des problèmes de calendrier. En tout cas, voilà, on en reparlera dans les prochaines semaines parce qu'on aura les informations qui vont tomber officiellement, qu'on se basera là-dessus, mais on a cette règle-là qui changera. Donc, le balayage. On répète, hein, le balayage maintenant est terminé puisqu'on a une qualification le premier jour et ensuite les pilotes s'élanceront dans la grille inverse de ce classement effectué lors du check-down.
Donc c'est vraiment cette spécificité-là qui va être modifiée et pour le reste, pas trop de changements, Mathieu?
Eh bien pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Donc tout ça pour dire... Pas au niveau effectivement du cadre sportif. Donc tout ça pour dire que vraiment on a accès du côté WRC, tout ça pour aller vers un peu plus de logique, c'est ce qu'il fallait prioritairement changer. Donc on est souvent les premiers ici à critiquer négativement des pouvoirs décisionnels en ce qui concerne le sport mécanique bien sûr. Quand il y a des bonnes décisions comme celle qui vient d'être prise, je pense qu'il y a une unanimité qui va se dégager entre nous. Ben, je crois qu'il faut aussi le saluer, n'est-ce pas Olivier?
Ah oui, de toute façon, quand on voyait l'année dernière, des pilotes qui s'arrêtaient genre le vendredi, là c'était la dernière spéciale, à 1 km de l'arrivée, ils freinaient ou ils ralentissaient, ils s'arrêtaient même sur le bord de la piste pour ne pas être en tête le samedi matin. Donc c'est vrai que ça, c'est une règle qui était vraiment à changer, et ils ont bien fait de la changer.
Voilà, donc c'est une règle principale sur le plan sportif. Donc on attend d'autres directives de la FIA si on en aura dans une refrain de 30 mètres parce que c'est intéressant, on veut voir enfin un championnat de WRC qui sera vraiment très sportif jusqu'au bout et on veut avoir de la lutte vraiment jusqu'au bout entre tous ces potes et ne pas avoir des stratégies, bon même si ça pourrait arriver forcément malheureusement, mais bon, pour l'instant on se dirige vers la voie du raisonnable, on y arrive. Et autre info de WRC, info sympathique, Chris Nissen, le directeur de Volkswagen, a déclaré avoir envoyé une sorte de test à Sébastien Vettel, le champion du monde de Formule 1, pour faire un test dans la Polo R WRC, donc histoire de le voir à l'œuvre, hein, parce qu'en fait, Vettel est très passionné par le rallye. Il a souvent justement rendu visite à des épreuves. Ça le passionne tout comme même ça l'a passionné. Bon, Raikkonen est resté 2 ans. Et la vie revient en finalement parce que ça ne lui plaît plus. En tout cas, pourquoi pas des telles heures dans un moteur de rallye hein, pour un petit test. Parce que forcément, sur le plan officiel, il ne pourra pas participer forcément à une manche. Ça semble forcément très compliqué. On sait que Red Bull est très strict là-dessus. Hein, ils sont encore assez réticents maintenant, mais bon, peut-être que Vettel aura droit à un test sur l'Apollo WRC. C'est très sympa pour lui.
C'est normal que ce qu'il soit réticent, vu ce qu'on a vu avec Robert Kubica l'année dernière. Ça fait encore plus réfléchir.
Exactement. Donc, voilà,
surtout qu'on se rappelle qu'on avait... À ce moment-là, moi, je faisais partie de ceux qui disaient que l'épanouissement personnel est quand même le principal élément moteur psychologique d'un pilote. Mais je me souviens que certaines personnes, je ne sais pas s'il y a une tempête ici. Ah non, non, c'est vrai, il y a une tempête chez moi. Donc bref, non, mais ça ne me déstabilisera pas. Le dieu de la météo ne me déstabilisera pas. Donc je disais, mais le souci, effectivement, c'est qu'il y avait d'autres personnes, et ils étaient majoritaires, qui disaient, les spécialistes qui disaient, mais les amateurs... que franchement c'était un risque inutile et qu'ils pouvaient comprendre que parfois effectivement les équipes puissent refuser cela. Moi je crois que c'est l'épanouissement personnel qui compte et de toute façon beaucoup de pilotes vont quand même être réticents eux-mêmes avant même que leur écurie ne leur interdise quoi que ce soit parce que effectivement l'épisode de Robert Kubica a vraiment marqué les esprits et c'est sûr qu'il y aura certainement du côté des pilotes un avant et un après sur les petits plaisirs qu'on s'octroie et qu'on s'octroiera durant l'intersaison.
Exactement, voilà. Bon, après, c'est toujours sympa de faire les tests en rallye, mais forcément, voilà, si malheureusement des choses devaient arriver, mais après, ça va être compliqué à gérer par la suite. Et voilà. Malheureusement, l'accident est toujours peut être envisageable dans ce type de sport-là. Donc, bon, on espère pour Vettel, si tout se passe bien de son côté, qu'il ne puisse pas avoir d'accident, ce serait dommage. Une info endurance maintenant cette semaine. Toyota, on en avait parlé, qui reviendra en endurance l'an prochain en LMP1 dans le championnat du monde d'endurance, a engagé Kazuki Nakajima, ancien pilote de F1 2008 et 2009, et Alexander Wurz,
ancien pilote de Formule 1
aussi, en 2007, et Benetton il y a très très longtemps, Olivier, tu vas dans un peu.
De 97, il avait remplacé Gerhard Berger car il avait subi une opération des sinus jusqu'en fin 2000.
Ouais.
Il n'avait pas été retenu.
On se souvient du célèbre Words, tu sais, avec les voix sur les premiers jeux vidéo. C'était, il a marqué l'histoire de la Formule 1. Moi, je n'hésite pas à le dire.
Ben, pourquoi pas, je suis pas mauvais.
À sa manière. C'était pas le plus mauvais, c'est vrai en plus. Hein. C'était quelqu'un, oui.
Il avait été placé chez Benetton en 98, justement, parce qu'il avait remplacé Berger. Il avait fait forte impression lors des 3 ou 4 Grands Prix qu'il avait participé. Et c'est pour ça qu'il a obtenu sa place de titulaire après la retraite de Gerhard Berger en 97.
Exactement. Alexander Wurz, c'est 3 podiums en Formule 1. Donc, Grande-Bretagne 97, Saint-Marin 2005, avec la McLaren. Elle a remplacé Montoya et Canada 2007 devant avec Kovalainen et derrière Lewis Hamilton qui est très un podium assez inédite et une course sympa aussi en 2007 au Canada. Donc voilà, Alexander Wurz, c'est surtout un pilote qui va un bagage technique impressionnant. Il va certainement pouvoir aider l'équipe Toyota à se développer en endurance pour leur nouvelle année l'an prochain en 2012. On passe maintenant à la Formule 1, forcément.
C'était pour revenir à Nakajima, c'est vrai qu'on l'avait perdu peu de la circulation. Et c'était pour dire que cette année, il court en Formule 1 à Nippon, donc c'est le plus grand championnat de monoplace.
Il a retrouvé Yoshihide.
Non, mais c'est vrai qu'on l'a perdu complètement. Il a complètement disparu de la circulation fin 2009 après son passage en Formule 1 et je pense qu'il va faire bonne impression en endurance à Toyota.
Ah, c'est quand même en Formule 1, on peut dire qu'il a marqué les esprits. Il a souvent été connu pour quelques casses mécaniques, notamment sur Alonso en Europe 2008, si on s'en souvient, au Brésil aussi sur Kobayashi en 2009. Il s'était accroché assez violemment, mais bon, en tout cas, Nakajima fut un pilote assez correct, mais voilà, sans plus. Il avait été recruté par Williams en 2008, puisque Toyota a équipé le moteur, était motoriste de Williams, et ils avaient comme obligation d'engager un pilote japonais, Nakajima, qui faisait partie de la filière Toyota, on va dire. Justement, il y a un lien entre Jujutsu et Nakajima, souvenez-vous. Oui, en 2007 au Brésil, Nakajima l'a remplacé. Et en place avec Thunderbolt pour gagner Grand Prix. Et on s'en souvient, Nakajima avait raté son auto au stand lors d'un arrêt. Il avait percuté un mécanicien assez violemment, sans gravité même. Allez, on passe à la Formule 1, messieurs. Ça gronde en Formule 1. La faute à l'association d'équipe se scinde en deux, en trois, en quatre. Rien ne va plus du côté de l'association des équipes de Formule 1. Après les départs de HRT il y a quelques temps maintenant, c'est Ferrari, Red Bull et Sauber qui quittent la FOTA. Ils ne s'entendent plus. Est-ce qu'un début de crise au sein des équipes, est-ce que ça c'est le jeu de la FIA de gagner Keston notamment? Les équipes ne sont pas d'accord, surtout c'est fortement sur la réglementation du budget, des équipes, des restrictions budgétaires. Ils ne se sont pas d'accord. Ils ne savent pas trop comment régler cette règle-là. C'est pas une règle vraiment fixée, c'est une règle de morale. Mais on l'a vu, Red Bull aura dépassé le budget, Mercedes va en faire de même, c'est très compliqué. Donc la FOTA n'a plus cette union si forte qu'elle a eue en 2009 face à Max Mosley et son budget limité à 33 millions d'euros, qui fut un scandale pour les équipes, effectivement. Mais là, cette fois, c'est ça en interne que ça ne va plus. Alors est-ce que ça pourrait, on pourrait croire, on pourrait avoir peur à une nouvelle envolée des budgets des équipes s'il n'y a plus de contrôle au niveau de la gestion de tout ça? Qui va gérer ça? Si ce n'est la FIA, un droit de regard sur les comptes des équipes, donc la comptabilité des teams, hein, forcément c'est très important, mais maintenant les équipes ont l'air plus libres, vont être plus libres dans ce domaine administratif-là. Donc est-ce qu'on peut avoir des écarts qui vont se creuser? C'est toutes les questions que l'on peut se poser.
Ouais. Bah, peut-être Olivier d'abord, sinon moi de toute façon je vais être très très bref par rapport à ça. Ce qu'il faut aussi s'il y en a effectivement, c'est que ça va faire le jeu uniquement de la FIA, parce que les voix vont être forcément discordantes, faut pas être grand clair pour remarquer ça. Moi je ne sais pas si ça va avoir tant d'incidence que cela, mais moi je me demande surtout si bon, ici le jouet est cassé, est-ce qu'il est réparable, est-ce qu'il y a trop de morceaux que pour le réparer? Parce que il est certain que si la FOTA continue à perdre son influence, elle ne servira plus, elle va mourir. Ça va vraiment relancer un petit peu le n'importe quoi au niveau des équipes. Il n'y aura plus du tout de consensus, ça va se bagarrer encore plus. Moi, j'avais loué, lors de l'émission Bilan, j'avais loué justement la bonne atmosphère, la relative bonne atmosphère entre les écuries. Il ne faudrait pas perdre ça non plus avec cette dislocation progressive de la FOTA. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait clairement le jeu de la FIA indirectement.
Olivier, est-ce que les équipes vont retomber dans les travers des dernières années avec les budgets non contrôlés, non limités qui partaient complètement en vrille, avec aucune limitation? C'est vraiment le problème avec la crise économique maintenant, ça peut être compliqué à gérer tout ça.
Bah, forcément, il va y avoir beaucoup plus de, je vais pas dire de dérives, mais ils vont dépenser plus après, ils vont pas non plus dépenser des folies comme il y a 10 ans, parce que vu la crise qu'il y a, ils vont pas non plus mettre l'écurie, on va dire, en l'air, quoi. Mais je pense que ouais, il y aura plus de dépenses et il y aura certainement plus d'écart entre les grosses écuries et les petites écuries. Et il y en a un qui doit bien se frotter les mains, c'est bien Mikkelsen.
Ah oui, c'est sûr, c'est pour l'instant une grosse problématique au niveau des équipes. C'est la principale source de discorde entre les pour l'instant. Après, et maintenant, si on peut-être que Toro Rosso va suivre Red Bull, on sait que Toro Rosso et Red Bull ont des liens très étroits entre eux, forcément. La machine va suivre et bon, après les équipes qui vont rester, ben forcément, ça va être compliqué hein, de gérer tout ça. Mais la FOTA va certainement éclater. Peut-être qu'ils vont reconstruire une autre association, mais pour l'instant, ça semble bien compliqué. Heureusement que la trêve est là pour essayer de calmer tous les esprits, de se reposer un peu. Voilà pour cette situation. Une annonce, notre info annoncée. Mercedes, tout d'abord un nouveau nom. Mercedes Grand Prix deviendra Mercedes AMG Petronas Formula One Team, la dénomination officielle. Il faut savoir que AMG, c'est la filière technologique et performance du constructeur Mercedes. Donc, c'est un petit clin d'œil à leur marque. Donc, notamment, AMG a fourni à la F1 les voitures de sécurité et les voitures médicales. Et l'autre information de Mercedes, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils manqueront La première séance d'essai à Jerez avec leur nouvelle voiture, la W03, ils seront donc à Jerez avec leur ancienne voiture, mais ils seront donc à Barcelone le 29 février avec la nouvelle livrée. Donc voilà, est-ce que, et même que Norbert Hoy a dit que d'autres équipes pourraient être dans le même cas lors des essais hivernaux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il y a même de moins en moins de temps, puisqu'on a même fini en fin novembre. Donc forcément, c'est encore plus compliqué à gérer, alors que l'avant, c'est beaucoup plus large. On reprendra le 18 mars, avec les essais qui sont le 25 février. En plus, FIA a obligé les équipes à effectuer le crash test avant les essais hivernaux. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à gérer en termes de calendrier. Donc on va certainement avoir d'autres équipes, comme notamment les plus petites, la Cherté Virgin avec leur ancienne voiture certainement, puisqu'ils ont besoin de développement sur en usine sur leur soufflerie. Maintenant on passe à une info transfert assez chez Lotus Renault Grand Prix. Encore une fois, on a peut-être à une épilogue qui semblait très très longue. Hein. Pour l'instant, on sait que Romain Grosjean a effectué un test en DTM avec BMW cette semaine. On n'a pas de résultat, mais on l'a su, donc c'était peut-être une première porte de sortie au champion GP2 de cette année pour le français, le DTM. On remarque, hein, ce serait pourquoi pas une opportunité, même si forcément la fin reste l'objectif prioritaire. En autre information, Gérard Lopez, l'actionnaire d'Uni Capital, a déclaré que futur coéquipier de Raikkonen ne serait pas un jeune pilote. Alors après, on ne sait pas trop vraiment ce que ça veut dire, parce qu'en jeune pilote, soit c'est un jeune pilote au niveau de l'âge ou au niveau de l'expérience, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Mais cette semaine, sur la fin, il n'est pas là pour représenter son site, mais on l'a pu voir que Grosjean finalement sera en bonne voie de signer avec MRCP, et donc forcément, Vitaly Petrov serait évincé. Donc peut-être dans la fin de la semaine ou ce week-end, on pourra avoir l'annonce. Peut-être qu'il va nous le dire, Romain, à Bercy ce week-end, ce serait sympa. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est encore très flou. Mais peut-être que Grosjean pourrait signer l'an prochain avec Lotus F1 Team aux côtés de Kimi Räikkönen, messieurs.
Moi, je pense que moi, je serais à la place de Bouillet. Je prendrais Grosjean, parce que Petrov, il a été un peu meilleur que 2010, mais c'est pas non plus un pilote exceptionnel. Et Senna n'a pas fait non plus grand-chose, malgré qu'il soit arrivé en cours de saison. Je pense que Grosjean, depuis qu'il a quitté la Formule 1 fin 2009, il a réussi grandes choses en remportant l'AutoGP, les GP2 Asia, les GP2 Series. Donc, comme il a tout remporté, je pense qu'il est dans la lignée d'aller en Formule 1 et en espérant qu'il arrive à suivre le rythme de Räikkönen.
Oui, c'est certain. Il y a en fait, clairement, objectivement, quand on analyse les choses de manière cartésienne, tous les éléments qui sont à notre disposition et à la disposition des teams laissent à penser que Romain Grosjean sera ou serait plus rapide que Vitaly Petrov. À cela s'opposent deux arguments qui peuvent être de poids. Ne voudra-t-on pas, dans cette écurie, laisser la poste de numéro 1 très clairement à Kimi Räikkönen, et à ce moment-là, ça libérerait éventuellement la possibilité d'avoir un numéro 2 quelque part qui servirait un petit peu d'aiguilleur. Autre question de taille, va-t-on privilégier l'aspect sportif qui, à ce moment-là, indiquerait que Romain Grosjean aurait sa place, ou l'aspect financier? Et là, on peut supposer effectivement que Vitaly Petrov aura plus de moyens financiers à apporter à l'écurie. La question est très très ouverte. On espère évidemment, je crois, nous trois, que Romain, parce qu'il le mérite en plus, retrouve un baquet de Formule 1. En plus, dans cette écurie, ce serait pas mal.
Après, je rappelle que l'OTC a donc racheté officiellement toute l'équipe. Et on le sait que même au niveau financier, il n'y aurait plus de problèmes comme c'était le cas en 2010. Et donc Petrov, maintenant, aurait moins d'influence dans l'équipe. Et on prendra plus au niveau sportif les résultats qui sont pour l'instant très moyens.
C'est clair. C'est clair. Donc, de toute
façon, une porte ouverte à Romain Grosjean, Bruno Senna pour l'instant, avant d'avoir une décision officielle qui, pour l'instant, laisse penser que Romain Grosjean est favori. Et après, moi, je pense que. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de numéro 1 parce que Räikkönen a certes plus d'expérience en F1 que Grosjean. Grosjean a vraiment plus, c'est plus dans l'actualité de la F1. Il a,
mais je suis totalement d'accord. Il a fait des choses qui se rapprochent plus de la Formule 1 que Kimi, c'est certain. Là, je te rejoins. Moi, ce n'était pas mon point de vue personnel. C'était peut-être ce que je veux dire, c'est que si on aussi choisit Vitaly Petrov, il pourrait servir cela d'argument en disant, bon, à ce moment-là, on prend le pari, on prend le risque de mettre Kimi en 1 et Vitali Petrov en 2. Moi, c'est parce que c'est pas mon sentiment, bien sûr. Hein. On est totalement d'accord, sinon Romain Grosjean pourrait être le numéro 1 la saison prochaine dans cette écurie, bien entendu, Mathieu, évidemment.
Moi, je pense que niveau développement, je pense même que Grosjean est plus impliqué à l'RGB que Raikkonen le sera, parce que Raikkonen vient dans l'écurie Renault. Grosjean est depuis quelques années, il a pu suivre le développement de la voiture, même si elle fut catastrophique cette année, mais au moins, il a vraiment plus de pistes, plus d'informations de base pour les développer en 2012, et vraiment, Grosjean sera plus impliqué que dans l'écurie Raikkonen, puisque on l'avait dit la semaine dernière, Raikkonen a vraiment des soucis de mise au point de développement de la voiture, c'est pas son point fort. Effectivement, Raikkonen, c'est plus vraiment le talent au niveau pilotage qui prime chez lui. On l'avait vu ces dernières années, hein, mais Romain Grosjean a évolué depuis 2009 et il a acquis beaucoup d'expérience et de bagages techniques pour faire des annonces à l'équipe, des briefings techniques avec l'équipe vraiment très complètes. Donc ça peut être vraiment intéressant pour Romain Grosjean qui a vraiment plus de chances de réussir en F1 que ce n'était le cas en 2009 où il fut forcément mal nommé par une voiture surtout qui fut catastrophique.
Ouais, il était lâché dans la cage au lion en 2009.
Ouais.
Une voiture vraiment pas terrible, un coéquipier extraordinaire, même s'il a été ridicule loin de là, mais ça n'a pas suffi pour qu'il reste en 2010.
Exactement, tout a changé chez Renault et on sait que Grosjean est amené par Flavio Briatore. Donc forcément, la donne a changé. Alors, on va peut-être accueillir notre ami Ben, justement, Julien de Toilet 5 qui va arriver dans quelques instants. Mais effectivement, pour conclure donc sur LRGP, on a Adrien Sutil qui est aussi en pourparler, Rubens Barrichello. Pour l'instant, rien, leur avenir n'est pas scellé pour les deux pilotes actuels en F1. Sutil, on le sait, hein, malgré peut-être une collision, mais il pourrait signer pour l'an prochain. Pour l'instant, aucune information vraiment concrète. Comme pour Barrichello chez Williams, on attend un Raikkonen et chez RGP ben, pour Barrichello. Bon, c'est encore très flou, mais peut-être qu'il va rester, ou juste entre Sutil et Barrichello, c'est la lutte pour la première place chez Williams qui se joue. Sébastien Buemi aussi l'a dit, il devrait avoir un verdict avant Noël chez Toro Rosso. Daniel Ricciardo chez Caterham, il y a encore beaucoup d'informations de transfert qui vont arriver. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant à suivre sans présentation de recevoir les derniers noms qui vont accéder en F1 en 2012. Donc on va encore patienter même jusqu'à l'année 2012 après le Tour de l'An, on va encore avoir d'autres rumeurs et les noms vont commencer à tomber après, forcément avant le début de la saison. Alors, eh ben messieurs, on va être quatre ce soir. Hein. Je ne le croyais pas. On sera un peu plus nombreux. J'accueille, comme il se doit, notre ami de Toile F1, Julien, qui fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir Julien, ça tombe bien, on parle de F1. Eh ben, Toile F1 est là, donc bonsoir à toi. Bonsoir. Est-ce que tout va bien?
Ça va bien, et vous?
Eh ben, ça va très bien, on arrive à tenir cette émission, hein, finalement. Donc c'est plutôt correct. Alors nous parlions donc du transfert en Formule 1, parce que Toile F1 aurait des infos que nous n'avions pas, notamment sur Romain Grosjean, peut-être. Il semblerait que Grosjean sera en pole position pour signer chez LRGP.
Effectivement, normalement, enfin, d'après des bruits qui courent, il y aurait une confirmation demain, soit en matinée, je pense. Donc c'est peut-être Romain qui va signer, mais je pense à 90% sûr que ce soit lui qui signe.
Et ben voilà, tout ce qui finalement ça confirme nos propos. Petrov aurait été vincé, Grosjean pour signer demain.
Donc, Petrov qui pourrait trouver refuge chez Marussia en remplacement de Glock.
Voilà, donc bon, on a une fin d'année qui va être assez folle et c'est, oui, c'est un Glock qui semblait assez serein. Quant à son avenir, et ben, un coup de théâtre alors. Ce sera assez demain.
Ce serait surtout un coup de théâtre parce qu'il a été quand même officialisé la semaine dernière avec Charles Pic. Il y a eu une conférence de presse justement avec les deux pilotes et s'il se fait entre guillemets virer, c'est vrai que ce serait quand même une grosse surprise.
C'est sûr, donc voilà, vivement, tes annonces.
qui arrive dans la semaine et la semaine prochaine. Une autre info, voilà, on passe maintenant dans le vif du sujet pour 2012. La FIA, avec sa réunion à New Delhi, nous a dévoilé les changements techniques et sportifs de 2012 dans une longue liste. On va faire l'énumération de ces nouveautés. Tout d'abord, en côté technique, au niveau du règlement, on le sait, les échappements maintenant seront vers le haut. C'est pour l'instant tout ce qui a été vraiment noté. Mais effectivement, on le sait, les pilotes, les écuries ont essayé de trouver une petite astuce hein, pour améliorer la vie encore une fois. Mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura normalement pas d'appendice, pas de petite pièce aéro entre le flap de l'aileron et le diffuseur normalement. Et c'est là où les échappements devront souffler. Donc c'est la règle, on retourne vers 2009, début 2010 pour certaines écuries. Voilà, mais attention, tout peut arriver avec Red Bull, notamment, ils vont nous faire quelques surprises à ne pas douter.
Oui, mon Mercedes, je crois qu'il devait implanter la F-Duck.
Aileron avant, oui.
Donc, je sais pas si le mec ou pas.
Eh ben, on verra, ça sera toujours des surprises hein, en début de saison. Une autre information de la FIA. Nous savons que les structures de protection latérale des cockpits seront soumises à un nouveau test d'effort vertical. C'est les petits éléments qui sont aux extrémités des pontons qui seront encore testés. Hein. C'est tout est fait pour l'amélioration aéro. Donc effectivement, il faut quand même qu'ils tiennent leur rôle en matière de sécurité, qui reste assez solide et forcément qui bénéficie d'un travail aéro. Donc voilà pour les principaux changements techniques apportés. C'est vrai que le règlement ne va pas évoluer beaucoup. C'est pourquoi hein, certaines équipes vont garder des éléments de 2011 pour se baser sur 2012. Donc on a dit, on le sait, ne devrait pas énormément évoluer. Donc on ne sait jamais, notamment puisqu'il devrait avoir un strike, peut-être. Pour l'instant, il n'y a quelques éléments de Discord. Entre Tony Ferrandez et Chris Horner à Boule pour le TERF en 2012, donc affaire à suivre, mais en tout cas, pas beaucoup de changements, ça on le savait, mais pour l'instant, au niveau technique, ça en reste là. Les changements sportifs, par contre, beaucoup de choses. Donc on l'a dit, les voitures devront passer leur crash test et faire avant de pouvoir rouler en essai libre d'avant-saison, donc avant Jerez en mi-février, très important. C'est pourquoi je répète que les équipes vont peut-être arriver avec l'ancien modèle de Jerez pour récolter des données qui sont quand même importantes. Une info sportive maintenant, c'est officiel, la limite d'un Grand Prix avec le drapeau rouge durera 4 heures maximum pour ne pas subir une autre aventure que comme c'était le cas au Canada cette année avec plus de 4h20 de course avec le drapeau rouge. Donc c'est 4 heures maximum à partir de l'année prochaine. C'est quand même long, hein, 4 heures. Attendre. Autre information.
Oui. Avant, je crois que c'était maximum de 2 heures, mais maintenant, c'est vrai qu'avec le rayon drapeau rouge jusqu'à 4 heures,
c'est... Oui, c'est 2 heures de course, quoi. Et s'il ne comptait pas le drapeau rouge, et là, on en compte tout, ça fait 4 heures.
Ouais. Oh, ça, c'est bizarre, comment.
Bon. Autre information, la voiture de sécurité, on va reprendre le règlement des années précédentes. Tout d'abord, c'est dès que la voiture de sécurité va entrer en piste, les pilotes retardataires auront le droit de faire le tour, par exemple, un pilote qui a un tour de retard aura le droit de refaire le tour devant la voiture de sécurité pour revenir derrière le peloton et retourner à sa place pour ainsi ne pas gêner les leaders devant qui se battent par exemple pour la victoire, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises cette année. Que beaucoup de retardataires gênaient forcément les leaders, et bon, ça faisait partie du jeu, hein, on va dire, et c'est pourquoi on va devoir changer tout ça. Et on retourne au règlement l'an dernier, il y a 3 ans, il me semble. Parce que je me rappelle, en 2009, en Australie, c'est encore plus compliqué, il me semble que c'était la voie de sécurité devait être beaucoup de tout. Elle devait attendre un moment où je sais que c'est ce règle-là qui sera à nouveau instauré. Mais en tout cas, voilà, l'arène est toujours très complexe. On en a eu beaucoup par le passé, hein, Olivier. Hein, mais c'est sûr qu'on n'a pas encore trouvé la formule idéale.
Bon, personnellement, j'aime pas trop ces règles-là parce que la bataille de sécurité va rester au minimum 5 tours en piste.
Oui, c'est ça,
Si
alors.
tous les pilotes doivent dépasser, revenir derrière le peloton, ça dure trop longtemps. Je vous rappelle, il y avait cette règle en 2007, je crois, il y a un Grand Prix, je sais plus, il y a un Grand Prix, ouais, il a fallu attendre 5-6 tours avant que la course redémarre. Donc, je pense pas que cette règle soit appropriée. Moi, justement, après, il y a des retardataires, mais justement, les pilotes doivent faire le forcing pour passer ces retardataires. Je trouve ça plus intéressant.
C'est vrai que moi, l'idée toute banale, c'est enfin, finalement que les retardataires retrouvent leur place sans faire le tour pour ne pas perdre de temps. C'est juste qu'ils laissent passer les pilotes qui sont un tour devant, derrière eux. Ils retournent leur place habituelle. Après, le problème, c'est qu'ils ne feront pas un tour de plus. Bah, ils économiseront un peu plus d'essence, de pneus. Bon, ouais, c'est un rythme. Il n'y a pas de règlement vraiment idéal pour la voiture sécurité, malheureusement. C'est toujours compliqué de faire cette règle, mais il en faut quand même une de safety car, forcément, puisque c'est elle qui nous garantit la sécurité comme son nom l'indique.
Ouais, du spectacle également. Une course, ça peut relancer des courses.
Exactement. Alors, ah, par contre, il y a une nouvelle règle que je n'ai pas du tout compris, je ne sais pas si Olivier ça va te parler. Elle nous dit que les voitures prisonnières de la voie des stands lors d'une interruption de course seront maintenant autorisées à regagner la grille à la position qu'elle occupait avant l'interruption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit les voitures qui, comme Hamilton à Monaco, avaient cassé son aileron arrière, il me semble que c'était ça Monaco, il a pu repartir. Ils l'ont réparé son aileron, quoi. Ils l'avaient bricolé rapidement, quoi.
Ils l'ont réparé sur la grille, sur
Voilà.
la grille de départ.
Donc c'est ça que maintenant ils seront autorisés, quoi, normalement, je pense.
Bah, c'est dans ce cas-là, l'année dernière, cette saison, c'était déjà autorisé. Ils l'ont réparé sur la grille de départ et je me souviens pas qu'il a été disqualifié. Donc,
Oui, ben, je me rappelle que ça avait fait un peu polémique, hein, aussi, à Monaco. Mais voilà, c'est en règle, par contre, assez compliqué, hein. Ou c'est soit des voitures qui sont dans les stands pendant le
Ah oui,
drapeau rouge.
au moment du drapeau rouge, ouais, on aurait le droit de reprendre le départ sur la grille.
Ça peut être ça, va. Mais en tout cas, c'est très vague. Je sais pas si le chat tout à l'heure parle, mais en tout cas, voilà une règle que je n'ai pas forcément compris, mais bon, peut-être que c'est ce qu'on vient de dire, hein, ça se pourrait. Par contre, une règle maintenant, bah forcément que l'on connaît, on s'en rappelle, et maintenant les pilotes ne pourront plus revenir sur la ligne de course après en être sortis pour défendre leur position. Les pilotes n'auront droit qu'à un seul mouvement de défense. Donc en fait, ce n'est pas l'aller-retour que le pilote. Alors, pour expliquer clairement, un pilote et deux pilotes se battent pour une place. Avant, on avait un pilote qui partait par exemple sur la droite et qui revenait sur la gauche. Maintenant, il n'aura plus le droit, ce sera, il revient sur la droite, il devra y rester sur la droite pour ne pas effectuer maintenant deux mouvements dans une seule manœuvre d'aller-retour face à un autre pilote pour forcément éviter le danger. Donc ça, c'est très clair par contre.
À l'époque, on pouvait faire des zigzags, maintenant on peut plus rien
Voilà,
faire.
c'est vrai. Autre nouveauté, c'est les pilotes ne pourront plus utiliser de raccourcis lors de leur tour de chauffe ou de décélération sans raison valable. On avait vu cette année en Corée avec Sébastien Vettel qui l'avait fait lors d'une petite formation. Il avait coupé un virage grâce à un raccourci qui lui a permis un peu d'économiser un peu d'essence et un peu de pneus. Donc ce sera interdit maintenant.
Enfin, c'est vrai que j'avais trouvé ça quand même assez surprenant qu'il coupe la chicane, mais surtout que personne ne dise rien. C'était quand même pour gagner du temps, je crois qu'il était limite niveau temps pour faire un tour, et en coupant cette chicane, il a réussi à refaire un tour chronométré, donc je trouve quand même que cette règle normale.
Exactement. Ensuite, ben, forcément, les 3 jours d'essai sont organisés pendant la saison Mugello en mai, entre le dernier Grand Prix asiatique et le Grand Prix en Espagne. Et maintenant, une règle maintenant qui peut changer la stratégie. Les pilotes peuvent désormais utiliser toute leur allocation de pneus dès le premier jour. Je rappelle, avant, on n'avait que 3 trains de pneus le vendredi. Lors des 2 premières semaines d'essai, on n'avait que 2 trains durs et 1 train tendre. Maintenant, tous les pilotes pourront, dès vendredi, utiliser leurs 8 trains de pneus. Voilà, donc ça peut changer quelques stratégies au niveau de la gestion des pneus, qui qui est maintenant désormais libre pour tous les pilotes. Donc,
ouais, voilà, pas mal de mesures concrètes qui sont vraiment des mesures qui sont vraiment voilà qui vont dans le sens de l'esprit de la Formule 1. Donc, on peut vraiment se réjouir, même si ce sont des mesurettes. Ce n'était pas une réforme complète, mais je pense qu'effectivement, ces mesures vont dans le bon sens. Et si les dirigeants automobiles avaient du bon sens?
Heureusement, hein, quand même. C'est heureusement
qu'ils ont on en du a bon sens, parfois douté.
Oui. Et, ben, a priori, ça, pour l'instant, c'est des règles qui ont l'air de vous satisfaire. Sauf que votre sécurité qui reste encore assez flou, mais ça, c'est un bête, un autre débat. Hein, ça, c'est compliqué vraiment à gérer cette problématique là. Voilà, maintenant, autre info de la FIA, bah, c'est le calendrier de la saison 2012 qui a été publié, qui est définitif. Alors, on va commencer donc la saison d'Australie le 18 mars prochain, dans moins de 100 jours maintenant. On y arrive tout doucement, on s'approche. Nous aurons bah, la Malaisie, la Chine et surprise Bahreïn le 22 avril. Et vraiment dans le calendrier, écrit, ça on l'a su cette semaine, une bombe a explosé près de l'ambassade britannique à Bahreïn. Donc forcément, si que le calme n'est pas encore revenu du tout à Bahreïn, ça va être compliqué de gérer, n'est-ce pas hein Bahreïn, sur un gros problème, et pourtant Bernie est encore formellement à sa course.
Non, mais bien sûr, mais le problème, c'est que il y a eu deux événements qui se sont déroulés en 3 jours d'intervalle. Donc, il y a eu une saisie destruction, que tu l'as dit, d'un paquet d'explosifs. Et il y avait une explosion, je crois que tu l'as dit, qu'il y avait une explosion 3 jours avant. Donc, effectivement, bah, c'est vraiment un souci parce que, et on voit que ça risque pas de s'améliorer parce qu'il y a une manifestante il y a des manifestations et une manifestante qui est morte, donc, hier. Et donc effectivement, ce qui provoque encore des remous, ce qui a provoqué des remous aujourd'hui, et on peut imaginer que ça va s'amplifier dans les prochains jours. Donc le Bahreïn est vraiment un état qui est menacé sur le plan international et même aussi de l'intérieur. Donc moi, je pense que là, vraiment, le choix, on en revient, mais c'était un choix purement financier et il faut vraiment reconsidérer la volonté de maintenir Bahreïn au programme, même si c'est fait, hein, c'est officiel, mais je suis vraiment pas certain que ce soit la bonne chose, effectivement.
Et ça dure un an, presque un an, cette situation dramatique politique. Et en plus, bah, les dirigeants de l'État, du Royaume, disaient que forcément, que la tenue du Grand Prix, ça pourrait calmer les esprits, le sport, hein, forcément, et fédérateur. Mais bon, je crois que c'est la priorité numéro un du pays. D'avoir le Grand Prix de F1.
Ouais,
pour l'instant, c'est la situation avec le peuple, la démocratie qui doit être instaurée.
Et surtout, on peut se poser vraiment des vraies questions. Jusqu'où peut aller la Bernie Ecclestone et les dirigeants de la Formule 1? On a quand même été gentils en disant qu'ils avaient du bon sens, mais par moments, on peut se le demander. Parce que, effectivement, toutes les agences d'enquête internationales indépendantes, donc les ONG étaient aussi, entre autres, donc les ONG, on ne peut pas les suspecter de suivre des gouvernements. Disent qu'effectivement il y a un usage excessif de la force, qu'on ne respecte pas les minorités, qu'on ne respecte pas le droit de manifester. Faut se rappeler hein, que par exemple des délits comme le vol peuvent entraîner la mort dans ces pays-là. Faut rappeler notamment que l'homosexualité là-bas est passible de la peine de mort. Donc ce sont quand même des choses qui interpellent. Donc moi je trouve ça toujours très très curieux que on parle d'éthique, on parle d'écologie, on parle de mesures à prendre, on parle de humainement, la sécurité des pilotes, la sécurité des spectateurs. Et pour parler d'argent, là, on se couche un petit peu sur les principes démocratiques, on oublie un petit peu les gens. Je crois qu'il y a un double discours qui m'étonne toujours un petit peu du côté de la FIA.
Exactement. Donc, Bahreïn est de retour, mais forcément, ça va être compliqué. Ensuite, nous aurons l'Espagne le 13 mai et Monaco. Le 27 mai, où je serai présent avec Olivier, avec beaucoup de gens, Monaco, ça va être très très sympa forcément à être là-bas. C'est un cadre idyllique, magique, féerique, stratosphérique, Monaco. Ensuite, nous avons le Canada, Grand Prix de Europa Valencia, qui a été donc remporté derrière ce Grand Prix nord-américain. Oui, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Hongrie, la Belgique, l'Italie. Ensuite, c'est la mini-trêve, puisque le 23 septembre, déjà nous avons Singapour le 23 septembre, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, Abu Dhabi, surprise les États-Unis, Puis on signe un accord de dernière minute avec Bernie Ecclestone qui aura lieu donc le 18 novembre, forcément une date un peu éloignée pour essayer de continuer les travaux.
Oui,
Donc
non,
voilà,
mais
le
c'est
Brésil, en fait.
un choix logique, hein, les États-Unis, on l'avait dit. Par contre, c'est vrai que pour le circuit, là, on se pose encore des questions véritablement. Mais non, c'est un choix logique, effectivement, d'accroître cette géographie-là. Moi, je crois que les États-Unis méritent aussi la Formule 1. C'est un pays qui a des traditions automobiles, certes différentes des nôtres, mais au final, la Formule 1, c'est comme la compétition, la discipline reine des sports mécaniques dans le monde. Je crois que peu de gens contredit cela. On peut parler de Paris-Dakar spécifiquement dans une épreuve de 2-3 semaines qui peut être aussi un aura, mais vraiment en termes de longueur et de durée, je crois que la Formule 1 mérite aussi ce pays, ce grand pays, ce beau pays qui sont les États-Unis, surtout ce pays qui a beaucoup fait pour les sports automobiles et qui a apporté aussi quelques champions à la Formule 1.
Exactement, beau calendrier. Donc, forcément, les modifications
Pas
de
d'énormes
Bahreïn,
surprises quand
de la
même, hein, Mathieu.
Formule 1.
Pas d'énormes
Oui.
surprises. Pas d'énormes surprises, je dis.
Ben non, forcément, c'est la suppression de la Turquie, le retour de Bahreïn, des États-Unis qui arrivent. Donc, forcément, pas de grands changements pour cette saison qui arrive. Voilà pour ces infos. En bref, de grosses informations de la semaine. Très intéressant. Cette semaine aussi avait lieu les trophées des 29e Autosport Awards. C'est un peu la cérémonie britannique des récompenses des pilotes et des sports mécaniques. Donc je vais en parler un petit peu parce qu'on a eu forcément des trophées, des récompenses méritées. Tout d'abord, on commence par la remise du trophée par le pilote international de l'année. C'est forcément Sébastien Vettel qui a remporté tous les suffrages, le pilote allemand, toutes sports mécaniques confondues, hein. Forcément, donc forcément, il a fait une saison très 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 impressionnante et il a mérité son titre. Et la voiture de course de l'année, forcément la Red Bull RB7, Adrian Newey, qui nous a conçu une vraie perle, un vrai bijou, et c'est sûr qu'elle remporte tous les suffrages. Eh bien, le rookie, maintenant le rookie de l'année en Formule 1, c'est l'Écossais Paul Di Resta. C'était mon favori, hein, j'ai envie de dire. J'ai eu raison. Paul Di Resta qui a fait une saison très très bonne avec Force India qui a surpris tout ce monde. Je répète, cinquième à Singapour. Il a vraiment fait une course magnifique. Le pilote de rallye de l'année, Sébastien Loeb, hein, champion pour la 8e fois, c'est assez logique. Et alors, par contre, hein, ça souligne la voiture de rallye de l'année. C'est la Mini, la petite Mini WRC de ProDrive. Donc, belle récompense pour la Mini qui sera encore en rendez-vous l'an prochain pour se battre avec les grandes équipes de WRC. Nous avions eu le pilote britannique de l'année, Jenson Button, forcément, un vice-champion du monde 2011 de Formule 1. Il a fait une saison très très correcte avec une lutte face à son coéquipier qu'il a largement remporté. C'est vraiment une grosse performance de la saison. Et nous avons deux trophées d'hommage. Tout d'abord à Damon Hill qui a rendu ses services au BRDC. Hein, c'est l'association britannique des pilotes qui était le directeur. Et vraiment, il a apporté beaucoup de soutien au pays et vraiment a essayé d'instaurer une image brillante des pilotes qu'il représentait du pays britannique. Alors qu'en France, hein, forcément, ça reste en discret là-dessus. L'aura des pilotes britanniques est très très aimée. Tous les pilotes britanniques sont vraiment très très. Enfin, c'est vraiment un caractère et un style de vie original. Et tous les pilotes qui sont passés dans les sports mécaniques britanniques ont vraiment insufflé un comportement de gentleman. Hein, Coulthard, Button, Damon Hill même. C'était vraiment des pilotes formidables et des hommes aussi en dehors de la monoplace, très très corrects.
Ouais, et puis c'était pas évident pour lui, hein. Damon Hill, après sa carrière, il a eu une reconversion quand même. Il a dû succéder à Jackie Stewart à la tête de une sorte de la présidence comme ça des pilotes automobiles de Grande-Bretagne. Donc justement, je crois que son mandat s'est arrêté il y a quelques semaines, où il va s'arrêter. Je crois que c'était prévu pour cette année, si je me souviens bien. Donc oui, effectivement, Damon Hill qui a su aussi trouver sa reconversion en général. C'est vrai, et là je te rejoins Mathieu, c'est que la Grande-Bretagne se prête plus facilement à cela. On voit que certains autres pilotes, par exemple, je pense pas spécialement en France, mais même en Allemagne un petit peu, par exemple en Belgique, On voit qu'on leur laisse peut-être un peu moins de place sur le champ audiovisuel, etc. Donc, c'est une bonne continuation et une bonne continuité pour Damon Hill, mais je ne sais pas ce qu'il a prévu pour la suite. En tout cas, il va rester, je crois, en Formule, peut-être pas en Formule 1, mais dans les sports mécaniques. Je pense que sa vie a toujours été comme ça. Il a jamais quitté la Formule 1 au final, presque jamais. Et je crois qu'il va rester pas très loin de la Formule 1.
Exactement. Et un autre hommage rendu à notre ami qui nous a quitté, Dan Weldon, hein,
Ah, bien
forcément, pour
sûr.
sa victoire en 500 miles d'Indianapolis.
Double
Et bien
victoire.
sûr, double, oui,
Double
cette
victoire.
année, la victoire cette année, mais aussi voilà, pour l'ensemble de sa carrière,
Ouais.
avec la victoire également en 2005. Et forcément, son décès, hein, qu'on a appris il y a quelques semaines, qui nous a tous attristés, c'était bien de le rendre hommage avec le prix Grigor Grant.
Certainement, et c'était en plus peut-être le plus mauvais souvenir, je crois, un sondage britannique dit que c'est le plus mauvais souvenir des Britanniques cette année. On peut comprendre aisément le choc que cela a dû faire là-bas.
Exactement. Et enfin, le prix de l'innovation autosport pour le film Senna, que je n'ai pas encore vu, que j'essaie de trouver dans les prochaines semaines, parce que c'est vraiment un film documentaire à ne pas manquer, hein, ça c'est sûr. Le
Ouais.
premier vrai film consacré à un pilote de Formule 1. En attendant l'autre film, un film de fiction cette fois, ce serait entre la magnifique lutte entre Niki Lauda et James Hunt en 1976. Ça va vraiment être intéressant à voir, et il sortira dans les salles. Alors forcément pas dans toutes les salles de France, hein, malheureusement je pense, mais au moins dans quelques salles, et on pourra le trouver
Spécialisé.
sur Internet. Oui,
Ah bah si c'est
exact.
avec Niki Lauda, ça a vraiment chauffé.
Bah, tu te rappelles, hein, Chris, en
Ouais.
76, rapidement, un championnat vraiment assez...
Ah ouais.
Peut-être la saison la plus marquante de l'histoire, avec l'accident de Lauda, le
Ouais.
retour de Hunt, et puis dans le dernier Grand Prix à Fuji, sous le déluge, là où Niki
Ouais,
a
c'est ça.
gardé ce titre.
Ouais, non, mais c'était vraiment extraordinaire, hein. Je crois qu'on a tous vu plus ou moins des vidéos de cela. On a tous dû regretter de ne pas avoir vu cette période. Bon, ça a parfois des désavantages comme les rides, mais parfois, voilà, on a vécu, on regrette le manque de frissons en direct, ce genre de choses. Même si, à mon avis, les téléspectateurs ont dû avoir très très peur. Et donc voilà, hein. Je crois que on aura les frissons et comme je disais, ça va chauffer. C'était un petit peu d'humour. Je sais que Niki Lauda a beaucoup d'autodérision, c'est pour ça que je me suis permis cela.
Oui. Donc voilà, les prix
Sinon,
auto.
on fait participer juste avant que tu virgules mon propos,
Oui.
on fait participer nos auditeurs et je crois que d'ailleurs ce n'est pas le premier que j'entends l'écrire, que je vois l'écrire plutôt. C'est notre ami Gros Zigoto qui nous annonce qu'il pourrait y avoir une annonce demain concernant Romain Grosjean. L'annonce qui aurait
Voilà.
lieu demain matin, l'officialisation l'attend. On salue des vieilles connaissances également parmi nos auditeurs comme China notamment, Bumblefoof. Et je sais qu'il y a EG qui est là, entre autres, également avec la F1 en continu. Très bon site.
Oui, exactement. EG, notre ami de PVAT, ce magnifique site PVAT
Également.
34.
Également, également. Toi, les
Allez.
F1, on peut citer, on va tous les citer, hein, nos
Oui.
sites amis quelque part.
Allez, on va terminer cette émission avec l'événement de ce week-end qui nous passionne tant, les ERDF Masters Kart de Bercy. C'est le retour de cette épreuve. Alors bon, malheureusement, je n'ai pas eu d'invité ce soir. J'ai essayé de contacter des gens, des organisateurs. Je n'ai pas eu de réponse, mais bon, on les aura peut-être jeudi prochain. Hein. Peut-être qu'on aura un sacré plateau d'invités. Donc on verra tout ça ce week-end avec Olivier, comment on va gérer tout ça. Mais en tout cas, les ERDF Mastercard, le retour. On l'avait dit en début d'émission, les Elf Mastercard ont été créés par Philippe Straeff de 1993 à 2001, avec la victoire de Vettel lors de cette dernière édition. Donc c'est le grand retour, hein, de ces Mastercard de Bercy, avec la nouveauté principale, ce seront des kartings électriques, mais en tout cas, même circuit, quelques chiffres sur cette piste qui fera 550 mètres de long, 10 mètres de large en moyenne. Nous avons un seul circuit composé de virages très serrés et d'une assez longue ligne droite qui se déroulera dans les coursives du palais de Bercy, c'est-à-dire dans les backstage à peu près. Mais en tout cas, voilà, on aura une superbe vue des tribunes et de la zone de presse pour nous. Mais ça va être assez sympa, vraiment. C'est vraiment très bien de remettre au goût du jour cette épreuve. C'est comme la Race of Champions, hein, c'est l'occasion de terminer l'année en beauté, sans pression, avec le sourire aux lèvres et vraiment de se faire plaisir avant de partir en vacances. Un plateau d'exception qui accueilleront les 12 000 spectateurs présents dans le Palais Omnisports de Paris-Bercy. Olivier, on va commencer par les pilotes de juniors qui sont en karting. On commence par un Britannique, Alexandre Albon, pilote de karting. Nous avons Paolo Bezanzenès, Dorian Boccialacci, un Corse certainement, Antoine Hubert, notre ami français qui sera avec nous jeudi prochain dans l'émission, donc qui pourra nous parler de son amusement en karting, hein, ça va être très sympa pour lui. Nous avons Charles Leclerc à Monégasque, Esteban Ocon, pilote français de KF3, Callum O'Keeffe, un Britannique qui fait vraiment les ravages en karting cette année, Dennis Olsen, un Norvégien, George Russell, un Britannique, et Lance Stroll, le Canadien, qui fait partie de la Ferrari Driver Academy. Donc les jeunes pilotes de karting auront vraiment pas mal de courses avec eux. Tout d'abord, deux manches le samedi et le dimanche, et une finale qui réunira les meilleurs pilotes. Donc ça va vraiment être assez sympa pour eux, l'occasion de se faire voir, puisque j'en rappelle, dans la première édition de ces Masters Kart, nous avions eu les pilotes comme Button, comme Vettel, comme Alonso, comme Kubica qui en font partie, qui se sont révélés un peu là. Par exemple, je l'ai dit, Vettel a gagné en 2001, Alonso a gagné en 98, donc c'est aussi l'occasion de se faire remarquer. Et dans tous les cas, ces jeunes pilotes de karting nous montreront tout l'étendue de leur talent, puisqu'ils en ont à revendre. Ça c'est sûr, hein, notamment donc Antoine Hubert qui sera avec nous jeudi prochain. On est vraiment impatients de vous faire parvenir ces propos et on va pouvoir parler avec un pilote de karting, puisque le karting c'est pas médiatisé, mais c'est là que tous les pilotes de F1 sont passés. C'est forcément la première marche de l'ascension suprême vers la Formule 1, le karting. Donc voilà, l'occasion de se tester pour ces très très jeunes pilotes. Et forcément, le plateau est aussi très conséquent au niveau des pilotes stars. Ils seront 20. On va commencer par les derniers arrivés. Cette semaine, il y a quelques jours, deux jours, nous avions eu Felipe Albuquerque qui arrive, le Portugais qui roule en DTM cette année, qui était à la Race of Champions le week-end dernier. Nous aurons l'arrivée de Robert Wickens, le Canadien champion de Formule Renault 3.5, qui aussi aura du talent à revendre. Nous aurons, on continue, Jules Bianchi, pilote GP2 Lotus Art en 2011 et membre de la Ferrari Driver Academy. Sébastien Bourdais, pilote d'endurance avec Peugeot cette année. Notre ami indien Karun Chandhok, pilote de Formule 1,
du beau monde.
Sera là aussi. Jérôme D'Ambrosio.
Ah, du super beau monde.
Notre ami belge qui malheureusement a été évincé
comme d'autres de la Formule 1.
Oui.
Sans surprise.
Attends, je fiches, voilà.
Sans Par surprise, hein, pendant sans surprise d'Ambrosio. Hein. C'était sonné d'avance.
Hein. Oui, exactement. Nous avons Paul Di Resta, le rookie de l'année, pilote Force India.
Du très très beau monde.
Romain Dumas, pilote d'endurance.
N'est-ce pas?
Romain Grosjean, champion GP2 2011.
Oh là là là.
Et donc, prochain pilote Lotus Renault Grand Prix l'an prochain, eh ben, il va nous le dire demain matin. Et puis, ce week-end, il fera certainement une annonce encore, vraiment. De quoi faire cette manche de Masters Kart avec le sourire et la motivation. Hein.
Vous allez avoir de la chance. Hein. Moi, j'en suis jaloux là. Oh.
Nous aurons, par contre, c'est une petite surprise, Nicholas Hamilton, le frère
de Lewis Hamilton, 4 ans, même pas, 2 ans, et je crois qu'il n'a même pas de fils encore. Hein.
Non.
Nicole ne l'a pas encore fait, mais d'ailleurs, elle ne l'offrira pas avec lui.
Le frère de Lewis Hamilton, Nicholas Hamilton, il faut savoir qu'il est lui aussi tétraplégique, et c'est un signe, hein, c'est un petit symbole qu'a voulu faire Philippe Streiff en l'invitant. Il pilote la Clio Cup.
Ouais, faut quand même que les autres fassent gaffe, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un accident.
Oui, à quelques... ça c'est sûr.
Faudra pas se blesser attention. Avant la nouvelle saison. C'est méchant. J'assume ma méchanceté.
Nous aurons entre Julien Jousse, pilote d'endurance et qui a fait de la Super League Formula avec l'AS Rome il y a quelques années, Sébastien Loeb, champion du monde des rallyes pour la 8e fois.
Doit-on le présenter?
Olivier Lombard, pilote d'endurance, vainqueur des 24 heures du Mans en LMP2.
Donc c'est un bon pilote, hein, et très jeune en plus, et je l'ai ajouté sur Facebook dans la semaine, donc on va essayer de lui parler, de se voir pour pourquoi pas l'inviter prochainement dans cette émission. Nous avons également Monsieur Franck Montani, hein, c'est un pilote de F1 passé chez Renault, chez Toyota et chez Super Aguri, et actuel pilote d'endurance chez Peugeot.
Et très bon consultant en télévision.
oui, c'est pas mal. Nous avons Gary Paffett, pilote de DTM chez Mercedes et pilote d'essai chez McLaren en Formule 1. Donc c'est pas mal. Notre ami Sébastien Ogier, vainqueur de la Race of Champions cette année et champion du monde junior des rallyes en 2008.
Et Stéphane Sarrazin. Et vice-vice champion du monde WRC. Vice-vice. Vice-vice.
Ah, oui. Pardon.
Vice-vice.
Si ça se dit, oui, pourquoi pas.
Oh, on se lâche ce soir, on est en famille.
Ouais, exactement. C'est Stéphane Sarrazin, pilote d'endurance et de rallye. Il a piloté notamment avec Subaru, hein, il y a quelques années, et en endurance avec Peugeot cette année. Adrien Sutil, l'allemand de Force India, qui pour l'instant n'a peut-être pas d'avenir en F1 chez cette écurie indienne, hein, affaire à suivre.
Super pilote.
Alors, nous avons Jean-Éric Vergne, vice-champion 3.5 cette année, et Tristan Vautier, pilote de Star Mazda, champion même, c'est l'équivalent de la 3.5 aux États-Unis. Je vais dans mes amis Facebook aussi, je vous le dis comme ça. On va essayer de l'inviter, pourquoi pas aussi. Mais voilà, Tristan Vautier a décidé de faire une carrière après être passé par la Formule Campus avec Vergne. Mais il a préféré faire ses carrières aux États-Unis. Bah, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Il a gagné, je l'ai dit, la Star Mazda, donc l'équivalent de la Formule Renault 3.5 ou du GP3 là-bas.
On se dire qu'il y a encore eu un pilote à décliner l'invitation. On avait Charles Pic au début, il a été remplacé.
Je l'ai vu à cet instant-là aussi, je n'ai pas le nom de celui qui l'aurait quitté.
Et moi aussi, je suis en train de chercher, mais je n'arrive pas à trouver.
Voilà, mais en tout cas, un plateau de rêve. Alors, messieurs, un petit pronostic pour qui est le meilleur pilote de kart?
Bianchi.
J'ai une Bianchi pour Olivier, ah, pourquoi pas.
Non, franchement, pour une fois, je vais me donner ma langue au chat. et on en a entendu un tout à l'heure. Donc, non, je vais donner ma langue au chat parce que sincèrement, franchement, il y a tellement de bons pilotes qui peuvent gagner que, franchement, et c'est peut-être pas le plus grand nom qui gagnera parce que, enfin, moi je pense que vraiment on va se régaler. Mais vraiment.
Ben, on va se régaler.
Ouais, mais vraiment cette fois-ci.
Et les pilotes stars ont le droit le samedi et le dimanche à une qualification chronométrée, chacun leur tour sur deux tours. Donc chronométré, deux demi-finales ensuite et une grande finale à 23h20 le samedi soir très très tard et dimanche à 18h. Et voilà, donc en tout cas, ils auront beaucoup l'occasion de briller devant les supporters, les 12 000 spectateurs de Bercy pendant ces deux jours. On va vraiment se régaler, comme on le dit, ça va vraiment être vraiment sympa. Donc c'est au Palais Omnisports de Paris-Bercy, sur le chat. Notre ami EG de Pivoté va y aller les deux jours et on nous intime l'ordre de ramener des photos. Ben, forcément, on va le faire. Hein. Normalement, on a le droit, hein, je pense.
Mais et Mathieu, j'ai retrouvé le pilote qui devait venir et qui ne sera pas là. C'est Johan Zarco qui est remplacé car il a eu une crise d'appendicite.
Exactement, c'est Johan Zarco, pilote 225, vice-champion en moto Grand Prix, effectivement. Bravo Olivier, bon travail d'investigation. Et ben voilà, donc ce week-end, c'est les Masters Cars. Et après, on va se dire au revoir pour la saison. Le programme du Motor Show, la semaine prochaine, page spéciale Masters Cars de Bercy. On aura des invités. On espère avoir aussi l'organisateur, d'autres invités. On aura Antoine Hubert et aussi pour la rigolade, Paul Louchatin, pilote de Formule Renault 2.0 cette année. Très ami avec Antoine Hubert, donc forcément l'occasion sera là pour déconner ensemble et parler plus sérieusement de ces Masters Kart et de leur carrière, de leurs objectifs. Mais en tout cas, ça va être très sympa la semaine prochaine. On espère donc avoir d'autres invités avec les contacts que nous ferons ce week-end. Et le 22 décembre, ce sera la dernière émission de l'année avec une sorte de récompense de Awards, des Motors Show Awards. Il faut qu'on voie ça en privé. On fasse quelques récompenses et on aura le droit au grand quiz d'Olivier qui trépigne d'impatience de nous le faire partager, mais en tout cas, on est très impatient d'être à Noël pour les cadeaux, mais on va devoir vous quitter pendant une semaine,
le 29 décembre ne seront pas là. On va se reposer un peu, le temps de digérer les repas très complets. Et on reviendra en forme en janvier avec le Dakar, avec beaucoup d'autres choses, la Formule 1 forcément, la suite des transferts avec nous. Donc voilà, un programme très chargé, on ne va pas se quitter. Et
Non.
Chris, on aura le droit à une nouvelle émission, le Vélo Tour. Pour l'instant, je peux vous le dire, chers auditeurs, si vous aimez le cyclisme, j'ai contacté Geoffroy Lecâtre, ancien coureur chez Radio Tchac notamment, et chez Agri-Tubel, et Michael Schérer, l'actuel coureur chez AG2R. Ils m'ont donné leur accord pour pourquoi pas passer dans une future émission du Vélo Tour. C'est un bon début. Je pense qu'on va être très bon dans ce domaine et on va faire parler de nous comme il se doit. Et peut-être qu'on aura un consultant, un ancien coureur. Il s'appelle Christophe Auriol, ancien coureur chez AG2R.
Bien, bien, bien connu, et
Ça peut être pas mal.
qui a fait quelques fois le Tour de France d'ailleurs.
Exactement, il a remporté le Tour de l'Ain que j'aime tant en 2003. Donc voilà, on va avoir un beau programme, une belle année 2012 en votre compagnie. C'est la fin de cette émission, messieurs.
Ouais.
Ce fut finalement un peu plus long que prévu. On est d'une heure et demie,
Juste
ce sera 1h40.
avant de conclure, Mathieu, puisque je sens que tu veux conclure sur les sports mécaniques avant nos dédicaces. Donc une
Oui.
petite question par hasard, est-ce que tu sais ou est-ce que Olivier sait si les pilotes seront accessibles pour le public à Bercy? Si oui, lesquels? Je suppose que ça, vous ne le savez pas encore, vous verrez sur place
Eh
et
bien,
avec les
sur le
recommandations.
programme qui nous est indiqué, nous avons justement pas vraiment d'informations là-dessus. On a juste écrit un show de présentation des pilotes, mais pas plus. Et on ne sait pas s'ils vont être accessibles ou pas. Mais après, peut-être que sur place, nous verrons d'autres indications sur ce programme.
Je pense que pour nous, ce sera beaucoup plus facile. Pour les spectateurs qui seront là-bas, je ne sais pas s'ils pourront vraiment voir les pilotes auprès d'eux.
Ça va être compliqué, mais en tout cas, nous, on a pour objectif de vous faire justement transcrire un peu leurs ressentis. Si vous ne pouvez pas vous en approcher, on aura le matériel nécessaire pour réaliser quelques interviews, faire des photos, et certainement, on va vraiment vous faire passer tout cela dans l'émission, sur notre page Facebook, que je vais mettre sur le chat. Mais en tout cas, voilà, notre objectif clair, c'est de communiquer avec nos chers amis auditeurs qui sont là grâce, qui sont là pour nous, mais surtout, on vous remercie d'être avec nous, et c'est grâce à vous aussi, on continue, et on va encore continuer longtemps. Chris, je te cède la main.
Tout à fait, et je t'en remercie de me céder avec autant de brio la main. Je suis en train de rapidement, ça c'est l'art d'improviser. Donc je suis en train de rapidement de connaître avec exactitude, pour ne pas dire de bêtises, voilà, je l'ai sous les yeux, l'horaire de la prochaine émission sur RTS, ce sera demain à 19h45. Ce sera une émission spéciale sur l'AS Beauvaise, vous le savez, qui est notre partenaire football de notre radio. Donc de 19h45 à 20h45 ce vendredi soir, donc demain, vous retrouverez donc l'avant-match de l'AS Beauvais avec évidemment les informations, nos amis spécialistes et qui suivent le club de très près. Donc si vous aimez ce club, vous le savez évidemment, comment vous ne le sauriez pas si vous aimez ce club. Rendez-vous demain à 19h45 jusqu'à 20h45 et dès 21h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission hein, qui aura lieu de manière mensuelle dès l'année prochaine. Matchpoint Radio, donc c'est une émission qui sera consacrée, comme vous le savez, à ma première des passions qui est le tennis. Donc dès 21h, je vous retrouverai avec Fabien Mulot, qui est journaliste spécialisé dans le tennis, ancien animateur et de nouveau qui fera son grand retour à la radio.
Est-ce qu'il reviendrait pour l'émission cyclisme? J'attends sa réponse.
Ah ben on verra. Donc on sera entouré donc de Fabien Mulot, notre journaliste tennis, et on verra et s'il y aura sans doute d'autres consultants. Matchpoint Radio, donc demain à 21h, on reviendra évidemment sur la formidable saison de Novak Djokovic, le bilan des Français, plutôt positif, on aura l'occasion d'en parler. On parlera aussi un petit peu de la WTA, les petites anecdotes, les plus beaux points de la saison. Une petite perspective par rapport à l'année prochaine, à la saison prochaine. Donc 21h jusque, ça durera à peu près 1h30, 1h45. Donc rendez-vous dès demain, 19h45, l'AS Beauvais. Si vous aimez le tennis, soyez là à 21h. Je vous présenterai avec Fabien Mulot. Matchpoint Radio.
Et ben voilà, le tennis arrive en grande pompe sur RTS. Chris va nous faire des aces hein, et des doubles et des smashes pendant toutes ces émissions. On va se régaler. J'espère que Fabien ne fera pas de double faute. On l'attend avec
Non.
impatience puisque Monaco, malheureusement, en foot, c'est terminé. Alors il va se tourner vers tennis. Nous, notre passion pour espérer et retrouver le sourire avec toi, Chris. Ça va être sympa, en tout cas, à suivre sur RTS. Allez, ben justement, je vais remercier. Mon cher ami belge, qui finalement fut là pratiquement au début. Je t'en remercie, hein. Écoute, ce fut un plaisir, avec effectif restreint. C'est pour ça que, encore une fois, je te remercie une nouvelle fois pour cette aide.